Espace Génie sur Europe 1,
16h-18h30, Laurent Ruquier.
Heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Caroline Diamant, ouais, François Renucci, ouais, Stevie Boulet, ouais, Florian Gazan, ouais, Gérard Miller, ouais, et celui qui est peut-être prix Renaudot. Ah, 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 oui, ah, oui, ah, on ne le sait pas encore nous-mêmes, mais vous, vous le savez sûrement, Yann Wax, ouais. Donc que vous l'ayez ou pas, on est fiers.
On saura il y a 3 heures.
Vous vous rendez compte de ça, Stevie? On a parmi
c'est l'équipe. Insensé. C'est un petit génie,
ah oui,
ce Yann Wax.
On est deux, Stevie, on est
au-delà du livre, hein, c'est dans la vie de tous les jours. C'est un génie au jour le jour. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
C'est-à-dire.
Mais ça veut dire qu'il a toujours des traits d'esprit comme ça qui sont absolument incroyables.
Mais vous aussi,
oui.
Oh non, c'est.
Alors, d'esprit, je sais pas, des traits.
Non, non. Moi, le génie, il vient quand on me frotte.
Ben voilà,
ah, voilà. Ben ça s'en est un, par exemple. Voilà.
Gérard Miller, qu'est-ce que vous faites là un lundi?
Je suis là un lundi parce que jeudi je tourne.
Qu'est-ce que vous
tournez? Je suis en tournage de mon nouveau documentaire sur Jérôme Cahuzac. Pour France 3.
Décidément, la liste s'allonge.
Oui, je suis d'accord.
Non, parce que...
Moi, je vraiment... parce que c'est bizarre, effectivement, la liste dont vous faites partie des gens
Ruquier,
dont fait...
DSK,
sur lesquels il fait des documentaires.
Ruquier, Strauss-Kahn et Cahuzac.
Il va sortir un coffret qui va s'appeler Laurent DS Cahuzac. Laurent, c'est mon 17e documentaire.
Ah bon,
il y en a beaucoup d'autres que
c'est quoi le premier de citer.
Le premier, c'était sur mai 68, 40 ans plus tard.
Tu m'étonnes.
Est-ce que Laurent n'aurait pas un compte secret au Havre?
J'ai en tout cas une auditrice qui n'est pas secrète et qui s'appelle Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Encore que vous n'êtes pas loin d'être secrète, parce que vous n'êtes pas comptabilisée parmi nos auditeurs en France, vu que vous êtes en Chine, à Shenzhen, c'est ça?
C'est ça, exactement. Je vous écoute en podcast. Ah
oui. Et on vous entend très très bien, en
les
tout
cas. Les fameux accords de Shenzhen, on les connaît.
Qu'est-ce que vous faites là-bas en Chine?
Alors, je travaille pour une entreprise française que vous connaissez, Carrefour.
Carrefour.
Avec un faux. Avec un faux de positive.
Voilà. Et voilà, il faut positiver en effet. Mais voilà, ils sont bien implantés en Chine, donc on importe des produits français. Donc ils ont besoin de quelques personnes qui connaissent bien les produits.
Et votre mari, votre chéri Thomas, lui, travaille à Singapour, c'est ça?
C'est ça. Et il vous écoute depuis Singapour en podcast aussi.
Oh bah dis donc.
Mais vous voyez quand alors, vous et Thomas?
En fait, ça fait pas longtemps qu'on est séparés, enfin quelques mois, c'est quand même trop long, c'est temporaire, on essaie de se voir une fois par mois.
On aime bien avoir des auditeurs exotiques, Isabelle.
Mais oui, on essaie de penser hors de la boîte, comme ils disent en anglais, think out of the box.
Ah oui. Excusez-nous, il y a très peu de bilingues dans l'équipe.
On aime bien avoir des auditeurs exotiques, mais pas trop longtemps. Alors on vous embrasse, Isabelle. Aurélie, maintenant.
Oui.
Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors vous êtes moins exotique, mais vous voulez nous signaler la présence d'un copain à vous, d'un tonton?
Oui, non, c'est pas mon tonton. Lui m'appelle Tata, mais c'est pas mon tonton.
Cherche, Stevie, cherche.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Vivien.
Vivien, dit le petit routier sympa. Alors,
voilà, c'est lui.
Où se trouve le petit routier sympa?
Ah, il est là derrière moi.
Ah, bah, voilà, il est caché là-bas dans le coin.
C'est vrai qu'il a l'air sympa.
Ah, ouais, mais il a l'air petit aussi.
Il n'a pas l'air routier.
Il n'a pas l'air routier,
non, c'est pour ça.
Et d'où il vient le petit routier sympa, alors, Aurélie?
De Bretagne.
De Bretagne. Oh là là, faut se méfier.
Il n'a pas mis son bonnet rouge.
C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Et vous, Aurélie, vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis professeur de danse en Bretagne aussi.
Professeur de danse en Bretagne. Ça alors, quel genre de danse vous apprenez?
De la danse moderne.
Et le routier, il danse bien, le routier breton?
Il danse pas mal, ouais. Il a une petite chorégraphie sympa qu'on aime bien faire de temps en temps quand on fait la fête.
Mais par contre, il faut qu'il ait 2,5 grammes pour la faire.
On vous embrasse, Aurélie. J'ai aussi un auditeur qui s'appelle lui Clément, qui normalement est dans le public aujourd'hui et qui me dit « Je suis dans la même situation que Christophe de Chavannes, c'est-à-dire affamé, j'ai besoin de batifoler. Si quelqu'un est d'accord parmi vos chroniqueuses aujourd'hui, on en a qu'une. Hein, c'est... Caroline Diamant, je sais pas où est Clément, il se cache peut-être maintenant, mais
voilà. Mec, il veut plus lever la main. Je suis désolé, fallait vérifier qui était là. Bon.
Vous avez l'air de l'intéresser quand même, Caroline.
Non, je crois qu'il regarde Stevie en fait.
Non, il a bien spécifié. J'ai 24 ans, je vous écoute depuis 10 ans. Je m'endors avec vous le samedi vers 2h, ce qui est déjà un début, monsieur. Quand on arrive aux invités pas connus dont on n'est pas couché. Post-scriptum, si je ne suis pas dans le public, j'attendrai dehors que votre pouvoir me permette d'avoir un endroit où m'asseoir. Pas sur les genoux de Stevie, car je ne suis pas encore du Mans.
De la Sarthe.
De la Sarthe, on dit de la Sarthe. Être de la Sarthe ou pas être de la Sarthe. Mais notez bien qu'il dit je ne suis pas encore du Mans.
Il est mieux en hétéro.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'a pas la tête à l'emploi. Enfin.
Mais Laurent, même s'il avait dit je ne suis pas du Mans, c'était déjà suspect. Ce qu'on appelle une dénégation, c'est les gens qui ont besoin de faire une négation de quelque chose pour ne pas l'affirmer. Hein. Quand les gens vous disent par exemple
c'est Laurent la dernière fois
Ruquier, que
je viens le lundi Laurent.
Laurent des fois il
mais c'est, connaît, c'est un là. Principe très simple. Quand quelqu'un te dit écoute je ne te prends pas pour un imbécile mais je pense que, vous pouvez retirer la négation, il vous prend pour un imbécile.
Ah c'est vrai.
C'est Freud appelait ça la dénégation.
Vous nous faites pas chier Gérard mais...
Exactement.
On va quand même vous passer à la pub.
Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé ?
Le qui a le mieux bossé commence par Stevie. Aujourd'hui, à combien vous en êtes, Stevie ? Je regarde un petit peu. Oh, ah, quand même, 5 victoires ! Wow.
Combien ?
5 victoires à égalité avec Florian Gazan.
Wow. C'est pas vrai.
Loin derrière Jérémy Michalak qui en est à 10 victoires, quand même.
Hein. Mais je suis.
Il va falloir quand même ramer pour le rattraper. Je regarde Gérard Miller. Ah, quand même 3. C'est mieux que l'année dernière,
ouais,
Gérard.
J'ai mieux travaillé.
Caroline Diamant, 4 victoires, c'est pas si mal.
La première femme.
Yann Moix, 2. Et François Renucci, 4. Ah, oui, ah, oui. J'ai des ténors aujourd'hui.
Ah, ouais.
Donc, des bons.
On va vérifier. Stevie, pouvez-vous me donner le nom du président, ex-président égyptien,
Morsi,
dont le procès démarre aujourd'hui au Caire ?
Morsi.
Mohamed Morsi. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ils ont l'un et l'autre annoncé leur mariage pour cette semaine par Twitter. De qui s'agit-il ?
Bayrou et Borloo.
Bayrou et Borloo, bonne réponse de Florian Gazan. C'est lui qui a remporté les Masters 1000 de Paris, le tournoi de tennis de Bercy.
Djokovic.
Djokovic, bien François Renucci. Oh, cet écrivain a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle algérienne.
Yasmina Kadra.
Yasmina Kadra, excellente réponse. Oh là là.
Elle est du level. Hein.
Gérard
la
Miller.
Pression, Gérard.
On ne peut pas chuter, Gérard.
Vous l'avez remarqué, les questions sont de plus en plus difficiles. Est-ce que je peux juste vous poser une question, Laurent ?
Oui, oui.
Mais pourquoi ne faites-vous pas un tour au moins de questions faciles ? Alors, Gérard, la première, la deuxième, la troisième sont faciles. Et après, ça se...
Pour l'instant, c'est facile.
C'est ce qui vient de se passer, Gérard.
mais là, alors,
le 7 novembre, cette semaine, on va donc célébrer le centenaire de sa naissance. De qui s'agit-il ?
Le centenaire de sa naissance.
Oui, Gérard.
Non, attention, laissez-moi une seconde.
C'est très
nous
facile.
Nous sommes en 2013, ça va être en... Donc,
le 7 novembre, c'est-à-dire jeudi.
Jeudi prochain, ça sera donc... Il est né en 1913... Vous ne dites rien d'autre. C'est le seul élément. Vous
écoutez, on ne parle que de ça toute
facile.
L'année.
Écoute,
c'est l'année du centenaire de la naissance de Albert Camus, Gérard Miller.
Enfin, Gérard.
Non, mais enfin, franchement, Gérard. Gérard,
c'est pas que t'es un culte, mais tu sais rien. Tu
non, mais là, non, franchement.
Quoi, là, non ? Non, mais vous êtes nul, Gérard.
Non, non, non.
Mais je vous ai connu brillant. Et
non,
vous
ça
ai connu...
m'a échappé.
Je ne dis pas que t'es con, mais t'as pas trouvé la réponse.
Vous pouvez évidemment me dire, chère Caroline Diamant, le nom du gardien de but de l'Olympique de Marseille qui a repoussé un pénalty.
Mbalaya.
Je vous donne pas une chanson de Maxime Le Forestier. Je vous demande le nom du gardien de l'OM.
Lloris.
Mais non.
Il
joue en Angleterre.
Pelé.
C'est vrai que Lloris était dans le coma.
Ah oui.
Bravo, vous suivez, Stevie.
Ah bah quand même, il s'est pris un sacré genou du Belge là, qui est pas mal d'ailleurs.
C'est pris un bleu. Il a pris un coup de Belge aussi. Hein.
Il t'aura bien mis en le coma.
C'était Mandanda, Caroline Diamant.
C'est pas ce que j'ai dit.
Non. Non, t'as dit Mbala,
toi, tu voulais dire Enyama, le gardien de Lille en plus.
Mandanda, le gardien de l'OM, a repoussé un pénalty, ce qui fait que l'Olympique de Marseille a enfin pu attraper un point. Ça faisait un petit moment que ça n'était pas
ça
arrivé.
Cinq matchs.
Oui, ça va le Parisien là.
Objectivement, je donne des
infos. 1-1 contre Rennes. C'était à Rennes, le match, c'est pas si mal. Il nous reste Stevie, donc, Gazan, Renucci et Yann Moix.
Oui, ceux qui ont répondu en premier.
Stevie, pouvez-vous me dire le nom de l'avocat qui a sauvé la peau du docteur Muller, puisque celui-ci a été acquitté au bénéfice du doute ?
Je sais.
Moi aussi.
Je ne sais pas.
L'avocat du docteur Muller, acquitté au bénéfice
monsieur
du doute.
Maître Ludo ?
Non.
Bah
Maître
Ludo,
ils auraient rétabli la peine de mort pour Muller si c'était Maître Ludo qui l'avait défendu.
Maître Ludo, il s'occupe des gens qui glissent sur une frite.
Oui. C'est pas Peretti, comment il s'appelle ?
Dupont-Moretti. Ah. Maître Dupont-Moretti.
Je savais pas.
C'est j'ai laissé mon cerveau à la maison.
C'était pointu.
Je quitte le jeu sans regret.
Au revoir.
Il est trop habitué aux émissions de télé-réalité.
Il quitte l'aventure.
T'inquiète pas, après, c'est que du bonheur, Steven.
Quand il retrouve la vraie vie, c'est c'est génial.
On le surnomme même acquittateur, maître Dupont-Moretti, parce qu'il est plutôt doué, effectivement, pour faire acquitter ses clients. Un autre centenaire, c'est pas celui d'Albert Camus, Gérard Miller, ça c'est pour Florian Gazan, cette question. On célèbre le centenaire de la police judiciaire parisienne, dont le siège est...
Bah, le siège est Quai des Orfèvres, à Paris.
Numéro...
Tout est dans le numéro.
Ah bah oui.
C'est quoi, enfin,
on dit même le numéro quand on y va. Ouais.
C'est le 13, le 7, le 13.
Non.
Ça s'accorde enfin, pas.
Le 26, ah oui, 26 qui est des orfèvres.
Non, c'est 36.
36.
36. Oh, ça va, j'ai dit qu'il y a des orfèvres. Ah bah ça non, va, il n'y a pas marqué Tom Tom non plus.
Ah bah non, alors là.
36 qui est des orfèvres, vous êtes éliminé, Florian Gazan.
Si, je suis désolé, le numéro est super important.
C'est même le titre du film de Marshall, 36 qui est des obsèques.
Mais oui, quand même, pas des obsèques, des orfèvres.
Allez, éliminé, Renucci.
Tiens, François Renucci, puisque vous faites votre malin aujourd'hui, est décerné, vous le savez, le prix Goncourt. On connaît même le gagnant du Goncourt. Mais est-ce que vous vous souvenez du vainqueur du prix Goncourt de l'an dernier? Qui a reçu le Goncourt l'an dernier?
Et le vainqueur, il savait
c'est oui, je sais. C'est
dis-le alors.
Palavezzi, c'est
Ferrari.
Oh, bravo Ferrari. Jérôme Ferrari, excellente réponse de François
Alors là,
Renucci.
Tu m'impressionnes.
Mais le prénom, c'est quoi le prénom?
Je m'impressionne. Pour un type qui lit jamais, bravo.
Si on a voulu le 36, on veut
c'est
le 36.
Ah non, non. Déjà, se rappeler que le gagnant du Goncourt de l'an dernier s'appelait Ferrari, fallait le faire.
Parce qu'il avait révisé le sport.
Jérôme Ferrari, le serment.
Ah oui, le serment de...
La chute de Rome.
Le serment sur la chute de Rome, en plus, connaît le titre. Bravo, François Renucci. Vous restez en course face à Yann Moix. Yann Moix qui va peut-être me donner, j'ai bien dit peut-être, le nom du seul tennisman participant au Master de tennis à Londres cette semaine, pour qui c'est sa première participation aux Masters. Tous les autres ont déjà fait les Masters au moins une fois. Les Masters, ce sont les 8 meilleurs joueurs de tennis au monde de la saison, de l'année. Et lui, il y va pour la première fois.
Djokovic.
Non,
je réponds n'importe quoi. Bien sûr, il est allé à tous, lui.
C'était allez-y, pour moi. Vous.
Richard Gasquet.
Mais non, Gasquet a déjà fait
Wawrinka,
les Masters.
Stanislas Wawrinka.
C'est le Suisse Stanislas Wawrinka.
C'est introuvable.
Un Suisse avec un nom polonais. Non, ça, je dis que c'est...
Le grand gagnant, ouais, c'est mérité. Hein, pour le gros cours, c'est mérité. François Renucci.
J'avais vachement bossé.
Tenez, un magnifique album Mick Jagger. C'est chez Grunt édition, des textes de Billy Altman sous la direction de Valeria Manferto de Fabianis. Il est magnifique. Enfin, j'en sais rien. J'ai même pas ouvert le plastique. Et hop.
Oh là.
Et voilà. Vous avez aussi la pub est déclarée. Ça, je l'ai ouvert. C'est plutôt marrant et amusant. Ce sont les publicités qui datent de 14-18.
Vous ouvrez tous les cadeaux que vous offrez, en fait.
Mais non, mais ça arrive sur ma table. Si c'est vraiment très bien, je les garde. Si c'est moyen, je les donne. J'ai aussi. Oh, regardez. Alors ça, c'est magnifique. Une biographie
d'Éric.
D'Éric Cantona,
yes.
Le rebelle qui voulut être roi. C'est Philippe Auclair qui signe cette biographie au Cherche Midi.
Tu me la fileras ?
Il travaille à France Foot et à RMC, Philippe Auclair. Et voilà, manifestement, c'est une bible sur Éric Cantona, le rebelle qui voulut être roi. J'ai aussi La nature d'un chef. Regardez, il s'appelle Emmanuel Renaud. Et ce chef étoilé des flocons de sel à Megève. Si vous aimez la... Vous cuisinez, je crois,
oui,
François Renucci. Voilà. Vous aurez les plus belles recettes de ce restaurant de Megève. Et de ce chef, par exemple, là, je vois un jaune de poule fumé, je vois quoi d'autre encore. Oh, il y a beaucoup de photos. Trois recettes, en fait. Oui.
Laurent, comment ça se fait que vous, qui avez le goût de la cuisine, vous n'avez pas gardé ce livre?
Parce qu'il y a 15 bouquins de cuisine qui arrivent par jour, je n'en peux plus, et je ne sais plus où les foutre. Ah oui, je vous jure, c'est insensé.
Bah non, j'admire le type qui donne ses cadeaux, mais c'est terrible. D'habitude, on fait ça au Noël suivant, dans un petit moment, il n'y a aucun temps de latence.
J'adore parce que je les garde même ce qui ne m'intéresse pas, parce qu'ils sont dédicacés. Donc, j'ai toute une bibliothèque de pour Laurent Ruquier. Pour Laurent Ruquier.
Il est revenu sur eBay.
Les murs porteurs, c'est le dernier single de Florent Pagny sur Europe 1.
Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bonjour Paul.
Bonjour Laurent.
Le week-end fut bon?
Très très bon, bien sûr.
Avant de partir en week-end, je vous ai vu passer rue François 1er dans votre Jaguar célèbre désormais.
Wow. Ouais. Oui, je vous ai trouvé en pleine forme d'ailleurs. Vous êtes très blond maintenant. Hein, vous faites peindre?
Vous avez confondu avec Laurent Delahousse, peut-être, non?
Je ne fais pas tendre, je ne suis pas blond, je suis blanc, je vieillis, tout simplement.
À mon avis, il veut faire de la télé, Vermus.
Ah, c'est ça, vous voulez faire de la télé, hein?
Ah là là, bon.
Ça, ça veut dire oui. En dénégation.
On va parler du prince Malko aujourd'hui. Vous savez qui c'est, évidemment, oui. Stevie, le prince Malko.
Non seulement je sais qui c'est, mais c'est...
Non, mais c'est Stevie que je parle.
Ah bon.
Non.
C'est SAS, le héros créé par Gérard Devilliers, puisque cet écrivain âgé de 83 ans nous a quittés. Alors vous allez me dire, Paul, mais c'est quoi l'enquête que je dois faire là-dessus?
Alors Laurent, c'est quoi l'enquête que je dois faire?
Tout simplement, j'ai lu des tas de papiers dans la presse sur Gérard Devilliers et son héros. Je ne sais pas combien il y a eu d'ailleurs d'épisodes et de bouquins.
200e.
200.
Je crois que c'était le 200e.
Et 100 millions de vendus dans le monde.
C'est assez incroyable, les aventures de SAS. Puis je me suis dit, mais alors, au fond, je n'ai pas souvenir qu'il y a eu de film de SAS. Non. Il y a eu OSS, évidemment, 117, ça on le sait, joué par Jean Dujardin et d'autres, d'ailleurs, avant Dujardin, il y a quelques décennies de cela. Mais des SAS, est-ce que ça a existé au cinéma? Et s'il n'y en a pas eu, ben pourquoi il n'y en a pas eu? Pourquoi ce roman, enfin, cette saga populaire n'a-t-elle jamais été adaptée au cinéma, Paul?
Surtout qu'il en avait, je crois.
Moi, je connaissais bien Villiers, Gérard de Villiers.
Il me semble qu'il y en a eu un qui s'appelait SAS à San Salvador.
Ah, alors,
ça
attention,
dit quelque chose. À vérifier.
Ouais,
à vérifier.
C'est
drôle comme la mort, quand même, fait oublier ce que sont les gens, quoi. J'ai lu beaucoup d'articles sur lui, alors on disait...
Oui, regarde Albert Camus, par exemple, plus personne ne sait quoi.
On disait réac, enfin, c'était plus que réactionnaire. Moi, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, à l'époque où je faisais, vous rappelez, des entretiens pour l'hebdomadaire La Vie. J'en ai fait 500. Le seul qu'on n'a pas pu publier, et d'un commun accord avec la rédaction, c'est celui de Devilliers. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, la façon dont il parlait des Arabes, la façon dont il parlait des Noirs, la façon dont il parlait des femmes, c'était insupportable.
Dites-moi en tout cas s'il y a eu des films. Monsieur Moix semble nous dire qu'il y a eu au moins un SAS. Mais alors, qui jouait le rôle de cet agent secret SAS? Quel est le comédien qui a incarné SAS à l'écran? Et pourquoi il n'y en a pas eu plus au fond? Puisque manifestement, c'était quand même quelque chose de très populaire et il en vendait beaucoup de ses bouquins. Quel que soit effectivement le caractère de ce personnage. Alors, deuxième affaire, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est l'histoire du tennisman argentin Del Potro qui garde une heure, s'est fait voler son sac avec à l'intérieur ce qu'on appelle un rosaire béni par le pape François. Ce qui m'étonne, c'est cette histoire, c'est comment ce tennisman s'est fait dépouiller de son sac. Je ne peux pas croire la version qu'on nous raconte dans les journaux, ou alors il nous raconte des bobards, le tennisman en question. Je vous lis l'article. C'est à la gare du Nord, disait arrondissement, que le tennisman s'est fait dépouiller alors qu'il s'apprêtait à prendre le train pour Londres, donc l'Eurostar. Je passais le point de contrôle pour monter dans le train et à ce moment-là, on m'a demandé un autographe. Déjà, ça, un mec qui demande un autographe à Del Potro que personne ne connaît, gare du Nord, déjà, faut le faire. Mais enfin bon, pourquoi pas. Je passais le point de contrôle pour monter dans le train. À ce moment-là, on m'a demandé un autographe. Je me suis retourné pour signer l'autographe et en moins de 20 secondes, mon sac avait été volé. Alors moi, je veux bien, mais pour tous ceux qui ont pris l'Eurostar, quand on prend l'Eurostar et qu'on est au point de monter dans le train, on a passé, je ne sais pas combien, 2, 3 ou 4 contrôles, Gérard Miller, vous confirmerez. C'est-à-dire que c'est une zone hyper sécurisée le moment.
Oui, mais il y a peut-être des voleurs avec billets, Laurent.
À chaque point, devant chaque wagon, il y a quelqu'un de la SNCF qui attend pour monter. Il y a des douaniers à chaque contrôle. Il y a des portiques dans tous les sens. C'est une zone super sécurisée.
C'est légèrement filmé. Il y a des caméras.
Mais on le retrouve facilement, le voleur.
C'est peut-être quelqu'un qui bosse chez Eurostar aussi, qu'est-ce qu'on savait. Il dit plus rien.
Cette histoire n'est pas claire, Paul.
Bon, en gros, comment il s'est fait faucher son sac, quoi, c'est ça.
Mais c'est-à-dire surtout dans une zone, on ne peut plus surveiller que celle du moment où on monte dans l'Eurostar, puisque on passe un premier sas où on doit effectivement montrer son billet, ensuite un deuxième endroit où on monte son passeport, ensuite on passe les bagages dans un portique de sécurité où il y a encore des douaniers. Donc je veux bien qu'on lui ait volé son sac à ce moment-là, mais là je me demande comment et qui. Paul.
On sent le Laurent Ruquier agacé de tous ces contrôles quand il va à Londres.
Hein, pas du tout, j'y étais ce week-end, c'est pour ça que ça m'a frappé.
Et qu'est-ce que t'en as fait du rosaire, du pape, alors?
Il a vendu un autographe.
Non, il est jaloux parce que lui, on lui a rien volé. Moi, on m'a rien volé, je suis Laurent Ruquier.
On m'a même pas demandé un autographe.
Tout ça pour que Paul Vermus le retrouve.
Moi aussi, je suis joué au tennis.
Mais non, mais enfin, vous trouvez pas que c'est bizarre, Gérard?
Oui, non, mais le récit est pas possible, donc c'est pas là que ça s'est passé.
Vous êtes d'accord?
Bien sûr.
Paul, il faut éclaircir cette histoire. Et puis alors, une autre chose plutôt bizarre ou amusante, enfin pas amusante ni même vraiment bizarre au fond, mais j'aimerais en savoir plus sur l'éventuel nouveau maire de New York. C'est cette semaine qu'il va y avoir l'élection du maire de New York et on nous dit que la ville pourrait basculer vraiment à gauche puisque c'est vraiment un candidat de gauche qui semble favori, qui s'appelle Bill de Blasio. Alors il a des enfants métis puisque sa femme est black, mais alors surtout ce qui est bizarre, c'est que dans un article signé Géraldine de Vosner dans le Parisien dimanche, on nous dit qu'il a exploité avec Maestro l'image de sa femme, poétesse, caribéenne et, ça, c'est cette précision qui m'a comme surpris, et ancienne lesbienne. Alors là.
Mais non, mais
comment on peut savoir que c'est une ancienne lesbienne?
Justement. Et... il aurait dit c'est une ancienne noire, c'était pas possible, tu vois, par exemple.
Ah, mais c'est bien pour la.
Peut-être caribéenne lesbienne. Elle va voir, on ne le sait pas. Si Stevie, tout d'un coup, se mariait avec une femme, on dirait ancien, éventuellement homosexuel.
Oui, mais alors, comment il a fait pour la convaincre, le Bill de Blasio?
C'est un très joli sujet.
Il est peut-être lesbienne aussi, on ne sait pas.
Non, mais vous êtes naïf. Enfin, écoutez, il y a des gens qui sont hétéros pendant tout un temps, qui découvrent leur homosexualité et l'inverse. Enfin, ça ne me semble pas du tout surprenant.
Je vais appeler l'ambassade. Hein.
On veut en savoir plus sur lui et donc sur son épouse, Paul, tout ça avant 18h.
Très bien, Laurent. À tout à l'heure.
Bon travail.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Muriel, bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Laurent.
Muriel est à Conte, je ne sais pas où ça se trouve, elle va me le dire dans un instant, et Jean-Jacques à Vitrolles, qu'on connaît un peu mieux. Alors Conte.
C'est dans les Alpes-Maritimes.
Dans les Alpes-Maritimes. Que faites-vous dans la vie, Muriel ?
Je suis banquière.
Banquière ? Quelle banque ?
Caisse d'épargne.
Caisse d'épargne, là où il y a l'écureuil.
Tout à fait.
Bon, et ça se passe bien, il y a une bonne ambiance.
Super.
C'est quoi vos horaires à la caisse d'épargne, Muriel ?
Oh là là, moi j'ai des horaires particuliers, je travaille à mi-temps, alors comme ça...
Ah, ils font, font des matchs de foot aussi à la caisse d'épargne ?
Hein ?
Non, rien.
Ah oui.
Non, je vous en prie, c'était pas la peine de vous forcer, Muriel.
Elle est trop mignonne.
Vous avez gagné, Muriel.
Jean-Jacques, lui, fait quoi à Vitrolles ?
Moi, je suis chauffeur routier.
Ah, ben ah. Non, on en a un ici aussi, un collègue à vous dans le public.
Ben, bonjour à lui.
Et ben voilà. Ah. Et on se salue entre routiers quand même. Qu'est-ce que vous transportez ?
Ben, je transporte en temps normal de l'alumine. Sinon, aujourd'hui, et je pense pendant 2-3 jours, du charbon.
C'est dangereux, votre travail, alors, Jean-Jacques ?
Ah, tout le temps. Tout le temps.
Transporter du charbon, hein.
J'aime les hommes qui ont le goût du risque.
Il y a une vanne ou pas derrière ?
Mais non, pas du tout. Mais c'est vrai.
Dangereux de transporter
du charbon. C'est inflammable, je veux dire.
C'est pas le salaire de la peur, c'est pas le trou de sérine quand même, le charbon.
T'imagines au-dessus d'un pont, quelqu'un qui balance du zip avec du feu.
Enfin, c'est quand même plus dangereux.
C'est pas le salaire de la peur quand même, Laurent.
Non, mais enfin,
le mec,
transporter du charbon, c'est plus dangereux que transporter du Nutella, par exemple.
Non,
pas sûr.
Ça dépend si tu croises Caroline sur la route.
Exactement.
Tu croises des grévistes chargés de merguez, par exemple. Tiens, ils t'attaquent, ils font un barbecue.
Vous avez mangé quoi hier soir, Jean-Jacques ?
Des cannelloni.
Des cannelloni.
Oui, que ma femme, comme elle est italienne, elle me les a fait, mais alors...
Aux petits oignons, hein. Et vous, Muriel ?
Ah, ouais. Purée de courgettes avec fromage, jambon.
Voilà. Très bien.
La banque.
Quoi. Muriel, Jean-Jacques, les hôtels MMV, Muriel et Jean-Jacques, vont peut-être vous offrir une escapade de 3 jours, 2 nuits, pour 2 personnes, en pension complète. À la montagne, dans un des hôtels club MMV de votre choix. Choisissez les vacances club à la carte avec près de 50 destinations partout en France. Des hôtels club avec des formules tout compris. Les résidences club, les locations d'appartements ou les villas vous offrent des espaces bien-être, hammam, jacuzzi, des clubs enfants pour caser les gosses pendant que vous allez skier. Plus d'informations sur www.mmv.fr. Muriel, Jean-Jacques, la question vous emmène jusqu'à Toulouse. J'ai eu un doute.
Bah, le temps d'y aller. Hein. Voilà.
Le quartier de Bagatelle, pour être précis, à Toulouse. Vous connaissez Gérard. Je vais même vous donner la rue exactement où ça s'est passé, l'affaire Muriel et Jean-Jacques. Au 17 rue du Mont-Doré. Là, au 17 rue du Mont-Doré, il y a un monsieur qui a 52 ans qui passe. Et quand il arrive au 17 rue du Mont-Doré, que se passe-t-il ?
Il n'a pas vu un gars dans une vitrine de chez Orange ?
Non. Il est là, à Toulouse, il se promène, le monsieur d'une 50aine d'années, il arrive au 17 rue du Mont-Doré, et là, que se passe-t-il ?
On dirait une histoire de Pierre Belmar.
Il s'est pas fait voler, non ?
Non, il s'est pas fait voler.
C'est grave ?
Oh.
Ça aurait pu.
Ça s'est bien terminé, ça aurait pu. Ah,
donc je le sais alors, c'est ça.
Ah oui, moi aussi je le sais. Allez, on leur laisse encore 2 secondes.
Ah oui. Ah là 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 là.
Ah là là.
Ah oui, allez, allez.
Hein ? Je sais plus.
Je sais plus le mec.
Les vacances, c'est
quelque chose. Il rencontre quelque chose. Il voit quelqu'un.
Non, non.
Il a rencontré Dieu ?
Ah non. Enfin,
un être vivant.
Le ciel lui est tombé sur la tête, hein, c'est ça, Laurent. Enfin,
bon, alors allez-y, il faut donner
une petite... rattraper un bébé.
Une petite fille,
de 3 ans
qui a échappé à la vigilance de ses parents et est tombée du 2e étage. Et il l'a rattrapée, ils sont sains et saufs tous les deux.
Elle lui est tombée dessus, il l'a rattrapée. Bonne réponse de Caroline Diamant. Oui, François.
Non, le problème, c'est comme il était rugbyman à Toulouse, il a droppé direct.
Après l'avoir bloqué, boum. Ouais, boum.
3 points.
C'était trouvable, hein, Muriel et Jean-Jacques.
J'ai pas vu l'info, moi non plus.
Et la chute du deuxième étage d'un immeuble de Toulouse, amorti par un passant, un homme de 52 ans qui a pu l'attraper au vol. C'était dans la Dépêche du Midi, mais ça a été repris, par exemple, par Le Parisien et Aujourd'hui en France. Elle était âgée de 3 ans à peine et ses parents n'ont pas fait attention. Elle est un peu turbulente, la petite fille.
Oui, enfin, n'ont pas fait attention. Oui, elle a échappé à leur vigilance, visiblement.
Mais pourquoi vous dites...
Mais n'ont pas fait attention. Je veux dire, on dirait, il y a des gens qui ne s'occupent pas de leurs enfants et qui les laissent une heure dans une pièce. Là, je crois que, vous voyez, ça a été...
Le mieux, c'est de les laisser dans un coffre, au fond. Hein.
C'était peut-être une tentative de suicide, on ne pouvait plus au bout de 3 ans de ses parents à la con. Là.
Ça devrait être une option, c'est comme la caisse à outils, le pneu de secours, l'enfant dans le coffre, comme ça, t'es peinard.
C'est perdu, en tout cas, je suis désolé, mais on y allait, Jean-Jacques.
Merci. Laurent,
oui.
Laurent,
oui.
Est-ce qu'on pourrait avoir, c'est possible d'avoir deux places de spectacle de quelqu'un?
Eh, hey, deux places de spectacle
n'importe
de quelqu'un.
Quoi, on vous offre deux places pour le livre de Yann Moix.
À lire sur place.
Moi, je ne sais pas qui passe du côté de Vitrolles dans les mois qui viennent.
Jean Roucas.
À Marseille.
Bon, bah, on va rechercher ça. On va voir s'il y a quelqu'un de la bande qui passe du côté de Marseille et on vous offrira deux places.
Vous irez bouffer chez Titoff, sinon.
Oui, pas de souci.
Muriel, Jean-Jacques, une prochaine fois, vous pourrez retenter votre chance. Je profite de la présence de Gérard Miller et Yann Moix pour poser des questions culturelles aujourd'hui, par exemple sur Camus.
Sur 1913 ans.
La question concerne ce qui se passe actuellement en Égypte. Vous savez, le procès de l'ex-président Mohamed Morsi. Et à cette occasion, on nous rappelle dans Libération une très jolie phrase que tout le monde connaît. Cette phrase, c'est « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. »
Pascal ?
Mais qui est l'auteur de cette phrase ?
Astérix ?
Quel
César ? Pascal.
Pascal ?
Non.
Prénom, Gérard ?
Non. Blaise.
Blaise
Pascal. Bonne réponse de Gérard Miller.
C'est tout. On demande de la culture, on vous en donne.
Là, tu vas nous donner sa date de naissance.
Blaise Pascal. Non, là, vous m'avez épaté.
Je ne savais pas que c'est lui.
Comment vous le saviez?
Comment je le sais?
C'est Cléopâtre qui lui a répété.
C'était le psy.
Tu vas se réécouter en podcast.
Durer. Ouais, j'ai une bonne réponse. C'est là, ça va finir.
C'est là. Attends, écoutez. Chut, c'est là.
C'est vrai, Gérard, que votre cote intellectuelle a baissé.
Mais non, mais parce que vous me mettez dans cette position, mais mon savoir est toujours aussi grand.
Oh,
et sa modestie.
Ah, ma modestie, n'en parlons pas.
Bon, alors attendez, je vais chercher une autre question culturelle. Ah non, mais
on
si.
On veut de la culture, alors, on veut.
Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui du dernier amour d'Aramis ou les vraies mémoires du chevalier René d'Herblay?
Ça, c'est un livre de Jean-Pierre Dufresne qui avait dû avoir le Médicis. Non, l'Interallié en 93.
L'Interallié.
En 93.
Oh là là, non. Ouais.
Et pour quelle raison en reparle-t-on?
À cause
pour
de la connerie.
Parce que le titre est long.
Pardon?
Parce que le titre est long, un truc comme ça.
C'est le titre le plus long récompensé par un prix littéraire. Bonne réponse de Yann Moix.
Dites-moi,
allez, encore
des
questions culturelles.
Il y a un café très sympa à côté de la station, si on vous laissait tous les droits.
Diego Rivera a le droit à une exposition actuellement au musée de l'Orangerie à Paris. Mais pouvez-vous me rappeler qui est sa compagne? Qui était sa compagne?
Frida Kahlo.
Frida Kahlo, excellente réponse.
Ça c'est facile.
François Renucci.
J'ai l'impression qu'on est à l'Académie française aujourd'hui.
mais en fait c'est pas drôle quand on est très bon.
À l'Académie des Neufs plutôt. Frida Kahlo.
Il y a Stevie et Caroline qui ont commencé une bolotte.
Bon, enfin, c'est pas vrai.
Alors
Stevie
une autre,
tout seul.
Autre question, on va voir jusqu'où on peut aller.
Allons-y.
Ah non, mais vous êtes fort. Dans quel cas conseille-t-on le réflexe palpébral aujourd'hui?
En cas d'arrêt cardiaque?
Non. Aujourd'hui, dans la presse, on conseille le réflexe palpébral. Dans quel cas? Je vais même vous dire, c'est dans le journal L'Équipe que j'ai trouvé ce terme.
Ah, c'est pour les crampes?
Ok. C'est un rapport avec le mec qui a été blessé?
Du tout.
Comment il s'appelle, Lloris?
Non.
Avec des droits de...
Peut-être faudrait deviner ce que ça veut dire, le réflexe
palpébral. C'est un réflexe de la palpation, c'est-à-dire on se met à toucher.
On se palpe la tête.
C'est comme le palpé roulé?
Non.
Est-ce que c'est la contraction de palpébral, de palper et...
Non.
Mais comment ça
s'écrit? Mais c'est vrai que le mot palpébral peut vous faire deviner de quoi il s'agit.
Comment ça s'écrit, Laurent?
Oui. colonne vertébrale.
Est-ce que c'est l'orthographe de palpé, c'est quoi?
Alors palpébral, P-A-L-P-E-B-R-A-L.
C'est comme cérébral alors. C'est les paupières?
Ah,
c'est les paupières, le mouvement des paupières.
Ah. Exact, c'est le mouvement des paupières.
Et ben, quand on reçoit quelque chose dans la tronche, effectivement, le cerveau nous fait fermer les yeux.
Alors dans quel cas?
En boxe.
Conseille-t-on le réflexe palpébral?
Oui. Et ben quand un doigt s'approche de l'œil.
J'ai eu peur.
Il va toujours plus loin dans la sexualité, ouais, Stevie.
Parce que ailleurs c'est palpé mais pas bras là. Ouais.
Ah, mais quand un doigt
s'approche de l'œil, c'est palpé le bras, c'est pas pareil.
C'est dans l'équipe aujourd'hui.
Ok, donc c'est un rapport avec un sport forcément.
Oui, ça pourrait être valable pour tous les sports.
Est-ce que c'est quand on fait des flashs? On vous photographie avec des flashs.
Ah, c'est les lasers dans l'œil. Les lasers dans les stades de foot qu'on vous met dans l'œil.
Excellente réponse de Florian Gazan et François Renucci. De plus en plus de petits malins utilisent des rayons laser dans les tribunes pour gêner les sportifs qui sont sur le terrain. Et dans ces cas-là, on conseille le réflexe palpébral, la fermeture de la paupière, tout simplement,
oui, pour éviter. Pendant qu'ils jouent, c'est vachement
dur. Pourquoi est-ce qu'on conseille pas l'interdiction des lasers plutôt?
C'est interdit, mais le problème, c'est évidemment de retrouver dans un stade qui a pu glisser dans sa poche. C'est des petits objets, hein, les lasers. Donc c'est pas facile, évidemment, même à l'entrée du stade, de vérifier si on en a ou si on n'en a pas.
C'est des amateurs de foot. Quoi.
Mais en tout cas, tout ça, c'était évidemment pour vous faire connaître
Mais c'est bien,
un mot supplémentaire.
En fait, on conseille à un mec qui a ça dans l'œil de fermer les yeux, quoi.
Oui.
C'est intelligent.
Non, mais c'est niveau footballeur, tu vois. Quand ça te brûle, mets de l'eau. Quand tu as mal à l'œil, ferme l'œil.
Si j'ai un truc dans l'œil, je ferme les yeux. Enfin, si j'ai un laser.
Normalement, des bons footballeurs trouvent les yeux fermés.
C'est un prétexte pour nous apprendre un mot du vocabulaire.
Exactement, Gérard. Merci, mon GG. Palpébral, vous saurez désormais, dès qu'il s'agira de parler de votre paupière, si vous avez besoin d'un qualificatif.
Alors, si on drague, on peut l'utiliser ou pas?
Oui,
pas. J'ai fait un palpébral. Non?
D'un seul œil.
Je
l'ai palpébral, c'est d'un seul œil.
Est-ce que le clin d'œil se fait encore, franchement?
Le clin d'œil, c'est une drague palpébrale. Vous faites un clin d'œil, vous, Stevie?
Ah ouais, j'aime bien.
Quand, souvent, vous m'en faites.
Quand j'encaisse.
Avec l'œil, on parle, Stevie.
Quand j'encaisse. Oh là là.
Est-ce que tu es obligé de faire cette voix-là quand tu fais un clin d'œil? Ouais, je fais des clins d'œil.
Dis-moi que tu parles de ta boîte de nuit.
Bah
là.
Oui, oui. Elle est folle.
Ah, ça a marché ce week-end?
Ah, ça fait démolir.
Attends, tu parles toujours de la boîte de nuit.
Non mais arrêtez, là, vous avez les idées mal placées. Je suis quand même pas obsédé à ce point-là.
Bah, j'encaisse, on se fait démolir. Excuse-moi, il y a d'autres termes quand même pour dire.
Au niveau, c'est vrai, ça vous tourne la perche. Hein.
Ça s'est bien passé. Non,
ça s'est très bien passé.
Au niveau du black, parce que je connais Jean Lursa.
Faites-le avec un petit réflexe palpébral. Une question dont vous aurez la réponse si vous avez lu Le Monde ce week-end. En effet, on nous parle d'un photographe qui s'appelle Kenneth Hadelman, qui a fait une photo qui a eu une telle répercussion qu'on parle aujourd'hui de l'effet Streisand. Mais qu'est-ce que l'effet Streisand?
Ah, c'est quand tu pousses du nez?
C'est quand tu louches?
Non.
C'est un rapport avec Barbara Streisand.
Un rapport avec Barbara Streisand.
C'est la photo de Barbara Streisand qui a fait parler de lui ou une...
Non, pas de Barbara Streisand.
Est-ce que c'est un problème? Barbara Streisand a protesté contre la photo, elle a pris des mesures particulières
contre cette photo. Oui, oui.
Je l'ai lu.
Un décolleté inopiné, une chose
comme ça. Non, mais on est tout prêt, on frôle.
Oui, je sais bien, on frôle.
Mais ça n'est pas ça du tout.
La photo était floue.
Ah, c'est pas ça du tout.
Pardon.
La photo était floue.
Non, aucun rapport.
Le bout du nez n'était pas sur la photo, c'était pas possible.
C'est impossible. C'est pour ça qu'ils ont inventé le panoramique, hein. C'est pour qu'on puisse faire le
c'est Blaise Pascal, le premier qui a parlé du nez de Barbara Streisand.
Au lieu de mettre un bas sur la caméra, ils mettent un bas sur sa tête.
Quoi?
Parce qu'on met les vieilles dames, elles mettent toujours. Je me rappelle comment c'était cette vieille dame.
Sheila.
Non.
Non. Ça va trop loin, là.
Non, pas chez là,
n'importe quoi.
Pas chez là, l'autre.
On dirait un
Sylvie Vartan.
Sylvie Vartan, oui, encore mieux.
On l'a reçu, on a tout essayé.
C'est pas les invités d'honneur, j'espère.
Pour mettre un bas sur la caméra.
Non, c'est Mireille Mathieu qui fait ça.
Non, toutes elles le font. Il y avait un bas sur la caméra parce que ça estampe les rides.
Estompe.
Normalement, ça dépend si c'est une japonaise.
Normalement, ça estompe les varices, les bas.
J'arrive plus aujourd'hui.
Est-ce qu'elle était en train de chuter, par exemple?
Non.
Et est-ce que la justice est intervenue dans
cette histoire? Attendez, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas le contenu de la photo, même si, bon, après tout, on en parlera du contenu de la photo, mais c'est ce qui s'est passé, évidemment. L'effet Streisand, c'est l'effet de la photo, c'est pas ce qu'il y a sur la photo.
Est-ce que c'est le fait qu'elle ait accepté quelque chose pendant la photographie, qu'elle a regretté après?
Du tout.
Par exemple, ça y est, j'ai une idée. Par exemple, je sais pas, je prends vraiment le truc, un symbole.
Oui, on a compris, symbole, hein, t'inquiète.
Mais par exemple, quelqu'un qui lève le bras comme ça pour une photo et que,
en fin de compte, ça fait moustache et une mèche après.
En fin de compte, ça fait une photo où elle a le bras en l'air comme le.
Non, ça serait une photo détournée.
Est-ce que la justice est intervenue?
au fond, je suis assez d'accord avec les fesses 13 ans. Moi, souvent, je conseille à mes amis, oui.
Est-ce que c'est la première photo volée ?
Du tout, mais ça
a l'air quelque chose. Est-ce qu'elle a réussi à faire annuler la vente d'un journal, par exemple ?
Non.
Est-ce que c'était une photo de quelqu'un d'autre sur lequel elle était et qu'on a vendu comme une photo d'elle ?
Non, non. Vous n'arrivez pas à comprendre
avant
que...
la chirurgie esthétique.
Non, vous n'arrivez pas à comprendre que le mot effet est important là-dedans. L'effet.
Comme l'effet papillon.
Oui, l'effet stressant, ça veut dire que c'est la conséquence de la photo qui est intéressante. Il y a d'autres photos récentes qui ont été victimes de l'effet stressant.
Est-ce que c'est un effet négatif ?
Oui.
Est-ce que c'est le fait qu'elle était avec d'autres personnes sur cette photo ?
Non.
Non.
Non, mais répondez non gentiment. C'est,
excusez-moi.
Ce type, il
allait
répondre.
Non, pas
du tout.
On va procéder par étapes. Est-ce qu'il y a eu un procès après la parution de cette photo ? Est-ce que Barbara Streisand
a porté plainte ?
Oui. Elle a porté plainte. Est-ce qu'elle a gagné ce procès ?
On s'en fout, c'est pas ça la question.
Est-ce que la photo, elle était en noir et blanc ?
Peu importe, non,
okay,
je la vois là, elle est en couleur.
Laurent, non, mais attends, excuse-moi. Laurent,
c'est le droit à l'image.
Mais non. Laurent a commencé à dire quelque chose. Je déconseille ou je conseille à mes amis et vous l'avez interrompu.
Oui.
C'est votre phrase.
Parce que justement, il pourrait aussi être victime de l'effet stressant.
Est-ce qu'elle portait quelque chose de particulier sur cette photo ?
Non, on s'en fout, on la voit pas, elle, sur la photo.
Si on voyait la photo, est-ce qu'on trouverait ?
Non.
Est-ce que François Hollande, il a été victime de
oui.
ça ?
Oui.
On a voulu interdire quelque chose et donc ça a eu une célébrité inouïe.
Excellente réponse de Yann Moix. C'est quand on veut l'effet Streisand.
C'est l'effet contraire, en fait.
C'est l'effet contraire, l'effet Streisand. On veut que quelque chose ne se voit pas, on porte plainte et total, tout le monde le voit. C'est ça l'effet Streisand.
C'est comme les implants.
C'est pas faux.
Vous avez raison.
Quand c'est mal fait, c'est pas faux.
Ça pour pas avoir l'air d'être chauve, on dit tiens, un chauve qui a des implants.
Ça, c'est l'effet Fugain, ça.
L'effet Streisand. La photo en question, et c'est depuis qu'on parle d'effet Streisand, c'est une vue aérienne du manoir de Barbara Streisand.
Et on voit son nez qui dépasse.
Non, une photo qui a été prise en 2003. Ce photographe américain qui s'appelle Kenneth Adelman avait fait publier cette vue aérienne d'une falaise pour... avait-il dit, est-ce que c'était vrai, ça je n'en sais rien, mais pour parler de l'érosion du littoral. Sauf que en haut de cette falaise, on voyait la villa de Barbara Streisand avec sa piscine en forme de haricot, et là elle n'est pas contente et elle porte plainte, si bien qu'évidemment ça crée tout un buzz, toute une affaire, et circule après sur Internet et dans tous les journaux la fameuse photo, alors que si évidemment elle n'avait rien dit, personne n'aurait jamais vu cette photo. Et ainsi de suite pour, effectivement, pareil, la photo de François Hollande, photo dans un premier temps que l'AFP a publié, puis l'AFP a retiré la photo et c'est ça qui a créé le buzz. En fait, l'effet Streisand, c'est l'effet inverse de ce qu'on veut et de ce qu'on souhaite au départ, c'est-à-dire ne pas publier une photo. On veut qu'une photo soit pas publiée et finalement, on la voit partout.
Ça marche pas avec les films. Cinéman, ils l'ont retiré de l'affiche et les gens n'ont pas voulu le voir quand même.
Ah, si, on l'a vu partout en DVD à 5 euros chez Total.
Désormais, vous saurez ce que c'est que l'effet Streisand, en tout cas. Dans un instant, nous aurons au téléphone Mme Christelle Ledeliou, qui est responsable des expositions temporaires au vaisseau à Strasbourg. Le vaisseau à Strasbourg propose 400 mètres carrés d'exposition, c'est dans le Bas-Rhin, vous l'aurez compris, et on peut y voir actuellement, et jusque je crois même en janvier prochain, une succession de jeux, d'animations, destinées aux plus jeunes, il faut le dire, mais vous pouvez y aller aussi, hein, vous allez vous amuser, c'est une exposition ludique qui tente de donner aux plus jeunes le goût de quoi ?
De la choucroute ?
Non.
Le goût du bois ?
Non.
Le goût d'une matière qu'on apprend à l'école et qui en général ennuie les enfants.
Oui.
Les mathématiques.
Le goût des mathématiques. Bonne réponse de Yann Moix et Gérard Miller. Bonjour Madame Ledeliou.
Bonjour.
J'ai dit jusqu'en janvier, mais c'est peut-être même au-delà de ça. Je vois que ça peut aller peut-être un peu plus loin encore votre expo.
C'est même sûr, il faut multiplier par 3, si je me permets. C'est jusqu'au 31 août 2014.
Ah oui, voilà. Carrément.
Donc, mais c'est une exposition d'un an.
Ça dure très très longtemps, cette exposition.
Bah oui.
Que vont faire les enfants sur 400 mètres carrés d'un espace consacré aux mathématiques ?
Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, depuis qu'on a travaillé sur le projet, on a traité cette exposition un peu spécialement, puisqu'on savait que les mathématiques, c'est un peu comme les légumes verts, quoi. On a toujours, soit on les aime, soit on les aime pas, mais on a toujours un a priori. Et donc, les enfants vont pouvoir jouer et prendre du plaisir, en fait, à faire des mathématiques, à réfléchir, à faire des constructions, à faire des défis, ce genre de choses.
Par exemple, on va leur faire faire, je sais pas moi, des racines carrées, des logarithmes.
Ah non, alors surtout pas. Donc on a enlevé tout ce qui était un peu scolaire et qui pouvait justement rebuter. Donc au contraire, on va plutôt jouer avec des bulles de savon, on va faire rouler des roues carrées parce qu'il se passe plein de choses en mathématiques là-dessus. Il va falloir faire des petits défis avec des cordes, voilà, plein de petites choses.
Bon, vous pensez que les enfants vont venir contraints par leurs parents ou ils vont venir naturellement ?
Alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a 400 mètres carrés d'exposition temporaire, mais on a aussi 2000 mètres carrés d'exposition permanente où les enfants adorent venir puisque c'est beaucoup de manipulation. En fait, on a un centre de sciences où on manipule. Donc, de toute façon, ils aiment le vaisseau. Et moi, je suis sûre qu'en venant dans cette exposition, ils y trouveront aussi leur compte et ils seront à l'aise, on va dire, avec cette expo.
Stevie, vous iriez jouer aux mathématiques ?
Oh, bah oui, ça doit être.
Mais t'es bon, vous, en maths ?
Ah, une brêle. Moi, je recopiais le devoir au propre sur une de la copie, comme ça j'avais les 4 points de présentation. Donc 4 sur 20 moyenne.
Pas bête.
Pourtant, si j'étais bon en géométrie, mais c'est tout. Le
pourtant,
reste.
Aujourd'hui, t'aimes bien les doubles décimales.
Si, ce que j'adorais, c'était le calcul. Calcul mental. J'avais un prof qui s'appelait. Moi, j'ai eu la chance en primaire d'avoir un prof à l'ancienne, où on se prenait les brosses dans la gueule, les craies.
Ah oui, la chance.
Et le calcul mental, c'était avec la règle d'un mètre. Il disait. Je sais pas, et tac, il tapait sur le bureau.
Par exemple, il disait 7 x 8 et vous répondiez quoi ?
7 x 7, 49, donc plus 7, ça fait 56.
Ah oui, il faut quand même que.
Ah bah attends, j'ai des paliers et je recalcule la partie.
A carré plus B carré.
C'est gratuit ou c'est payant l'exposition au vaisseau ?
Non, il y a un billet d'entrée, effectivement, dont il faut s'acquitter à l'entrée du vaisseau pour avoir accès à toutes les expositions, le jardin et les activités qu'on offre autour, comme des films en 3 dimensions, des ateliers, ce genre de choses.
Et c'est combien ?
Alors, il y a plein de tarifs. Le grand tarif, c'est 8 euros pour les adultes, 7 euros pour les enfants. Mais si vous venez en famille, il y a des tarifs à la journée, pour les familles. Voilà, il y a des tarifs spéciaux. Il faut se renseigner sur le site internet. Tout est marqué.
Et si on prend donc 4 billets de 8 euros, ça fait combien ?
Ouais. 25, donc.
Pour un usage ?
Elle plaisante.
Pour un espace de 400 mètres carrés, donc ça fait combien le mètre carré par visiteur
et par unité de temps, s'il vous plaît.
Voilà. Oui. Et en
si
allemand,
on
si
fait
possible.
Rentrer un visiteur chaque minute.
Alors typiquement, l'exposition, c'est pas ça. L'exposition, c'est vraiment beaucoup plus ludique, puisque voilà, on fait rentrer des formes, par exemple, dans d'autres formes. On peut.
Ah, oh là. Ça devient intéressant.
Ouais, voilà,
ah, attendez, il y a Stevie qui part en TGV là.
C'est le salon érotique que vous nous décrivez. Là.
J'espère pas. Mais...
Bah, on va venir faire une émission sur place.
Voilà. Non, mais j'ai bien compris qu'il s'agissait en fait de différents espaces où les enfants font des maths sans le savoir, en quelque
oui,
sorte.
Et dès 3 ans. Ça, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les tout petits, les 3-6 ans, ont un espace rien que pour eux. Et c'est rare en fait de trouver des espaces sur les maths pour les 3-6 ans. Donc,
Bon, on va remercier Anne-Claire Gentilhon de Libération qui est allée jusqu'à Strasbourg pour voir votre exposition. Et c'est elle qui nous a donné. Enfin, elle, je ne la connais pas, hein, mais en tout cas, c'est son article qui nous a donné envie de vous téléphoner pour en savoir plus aujourd'hui. Bonne chance à l'exposition Mathémanip. C'est donc, je l'ai bien compris, jusqu'au 31 août prochain au vaisseau à Strasbourg. Merci madame.
Merci à vous.
Bravo.
On va se gêner sur Europe 1.
16h-18h30. Laurent Ruquier.
Stevie Boulet, Caroline Diamant, Gérard Miller, Yann Moix, François Renucci et Florian Gazan. C'est l'équipe du jour. Fine équipe, hein. Non, vous êtes très fort aujourd'hui, je dois dire. Et là, je sens que la réponse va fuser encore, puisque vous savez certainement pour quelle raison Monsieur Beautour a décidé finalement de ne pas porter plainte.
Monsieur, ah, c'est le
pour le lama.
Serge Lama, c'est le propriétaire du lama du cirque à Bordeaux.
Exactement, c'est le propriétaire du cirque franco-italien où un lama a été subtilisé par des jeunes étudiants un peu bourrés, on va dire.
Ouais, ils avaient en moyenne 2 grammes dans le sang. Ouais.
Voilà, et ils ont fait une petite virée avec un lama du cirque.
En fait, ils sont sortis d'un bar très tard dans la nuit, ils sont passés près d'un cirque, il y avait de la lumière, ils sont rentrés dans le cirque, ils ont sorti des animaux et ils ont trouvé ce lama placide et ils l'ont amené avec eux, ils l'ont balayé dans tout Bordeaux. Ils l'ont fait prendre le tramway, il y a eu des photos et voilà, ils sont devenus célèbres. Le patron du cirque a porté plainte, il a retiré sa plainte et demain, je vous annonce, une grande rencontre entre les étudiants, le lama et le patron du cirque à nouveau.
Et Serge Lama aussi, non ?
Et Serge Lama qui voulait payer l'amende, parce que s'il y avait une amende à payer, il était prêt à
payer l'amende des étudiants.
Ouais. Bon, c'est sympathique.
C'était marrant.
C'est génial. Est-ce que le lama a souffert? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse.
Non,
oui,
bah, non, il a pas souffert. Il a vomi un peu parce que le pastis, il n'était pas habitué.
Bah, il a chanté Je suis malade après la nuit, mais sinon, ça allait bien. Parfois.
Non, mais il est apprivoisé, ce lama. Il est dressé. Puisque
c'est
il
comme un chat.
Il appartient à un cirque, donc ils n'ont eu aucun problème à lui faire faire tout ce qu'il voulait. C'était remonter dans le tramway, descendre du tramway.
Ah, c'était very bad trip. Mais ce qui est génial, c'est que ça fait le tour du monde. On voit l'effet d'Internet. C'est qu'ils en ont parlé en Australie, en Pologne. Et maintenant, on demande.
Ça veut dire que ce lama, il est international. Non,
bah, à Bordeaux, on demande des autographes aux étudiants qui ont enlevé le lama quand même. C'est devenu des vedettes locales.
Ils n'ont pas eu les couilles de le faire avec le tigre en attendant. Hein.
Non. C'est pour la prochaine fois.
C'est peut-être parce qu'aucun chanteur s'appelle tigre aussi.
Mais non, ils ont pris un lama. Il se trouve que ce lama s'appelait Serge, mais ils n'avaient pas pour attention.
Oh, bah c'est pas eux qui l'ont appelé Serge.
Ah non.
Non, il s'appelle vraiment Serge.
Ils ont essayé de faire le coup avec Anne Brochet, ça n'a rien donné.
Avec le chanteur ours, ils pourraient essayer.
Un sacré clin d'œil, a dit Serge Lama quand même, vous voyez.
Ouais.
C'est-à-dire un réflexe.
Pavlovien.
Palpébral. Retenez un peu ce que vous apprenez dans cette émission. Si vous avez fait des choses comme ça, amusantes, marrantes, quand vous étiez un peu ivre avec des copains ou des copines.
Oh non, j'ai jamais été vraiment ivre au point de tomber ou faire n'importe quoi. Moi, je bois. Bah non, parce que dès que je suis.
Tu veux qu'on te ravive la mémoire?
Je suis gay, alors dès que je suis pompette, je me calme.
T'as quand même fait une émission de télé avec une peluche d'âne.
Non, mais ça n'a rien à voir. Bourriquet, j'ai depuis 86. Puis il y a un soir, je crois qu'avec 4 copains, vous êtes sortis avec une fille quand même.
Vous l'avez traîné dans toute la ville. Il paraît même que vous lui avez fait prendre le tram.
Ouais, par contre, ils l'ont laissé dans le tram. Mais on n'a pas besoin de ce truc.
Non, mais c'est vrai que Very Bad Trip, c'est ça, quoi.
C'est exactement ça.
Qui a déjà. Voilà. Vécu une nuit à ne pas se souvenir exactement de ce qu'on a fait ou à se retrouver dans une situation absolument grotesque.
On a déjà perdu des potes comme ça, mais
comment
jamais.
Ça, comment ça
bah, une fois on était parti, on était alors c'est à l'époque de la limite au Mans qui est quand même qui était une institution du monde gay. Et on avait un pote qui s'appelait Choco. Et il avait... et
moi je veux pas savoir qui il fourrait. Hein.
La tête de Gérard.
Choco.
Et la Choco, à chaque fois, il fallait qu'elle se travelote. Mais bon, on était dans le vieux Mans, donc c'est des pavés, tu vois. Et elle avait toujours des talons aiguilles.
Elle, c'est un garçon ou une fille Choco?
Oui, elle se travelotait.
C'est un garçon.
Ah d'accord.
Mais pourquoi Choco, tu t'appelles?
Et on part comme ça, et puis on arrive chez moi, et puis on se dit, bah merde, il manque la Choco qui devait dormir chez nous. Donc on retourne à la boîte et on sonne à la porte, on demande à Annie, la patronne, et on dit à Annie, non mais attends, il nous manque la Choco, vous l'avez pas vu partir? Bah non, il y a son vestiaire. Alors là on cherche la Choco. La Choco, elle était allongée parce que en fin de compte elle a fait un coma dans les chiottes. Elle est tombée, cette conne, avec le cul contre la porte et la tête contre le mur d'en face. Elle a dû prendre Choco. Donc on pouvait pas ouvrir la porte, en fait.
Elle s'est fait violer par Pépito.
On a retrouvé des traces ABN.
Mais donc, attends,
mais pourquoi la Choco, tu te la tapais à 4h ou quoi?
Mais non. Alors on la pousse et en fin de compte elle était dans le coma, c'était
oui bon voilà, ça y est, ça va maintenant,
dans la pisse, les collants troués, avec le Jaden sur la tête
et Papy Brossard qui se branlait.
Gérard, voilà. Gérard, vous, ça vous est jamais arrivé?
Jamais. Moi aussi, tu t'es traveloté déjà.
Une autre question: qu'est-ce que l'Europe demande à ce que ça ne fasse que 3,5 litres en moyenne? Qu'est-ce que l'Europe demande à ce que ça ne fasse que 3,5 litres en moyenne?
La vessie de Gérard Depardieu?
Non.
Est-ce que c'est lié aux veilleurs de cru?
Quoi? Les veilleurs de cru, non.
Non, mais c'est pas de l'alcool qu'on peut faire soi-même, il faut pas en faire plus que 3,5 litres?
Non.
C'est peu, 3,5 litres.
Ah oui, c'est
donc
peu.
C'est pas une production commerciale?
Non.
Est-ce que c'est un contenu ou un contenant déjà?
C'est à la fois un contenu et un contenant.
Bah quand c'est un contenu, ça contient.
Mais quand même, Laurent, est-ce que c'est quelque chose qu'on ferait soi-même?
C'est-à-dire?
Tu penses à quoi?
Comme les bouilleurs de cru, c'est-à-dire qu'on avait le droit de
non,
faire.
Non.
Est-ce que ça se boit déjà?
Non, ça. Oh non, non. Franchement, je. Ça pourrait, mais enfin.
Même par la Choco.
Un soir de beuverie avec Stevie et la Choco, mais autrement, non.
D'accord.
Ah, les bouteilles dans les établissements de nuit?
Non. Ça doit faire, selon la communauté européenne, 3,5 litres de moyenne. C'est une étude qui vient d'être réalisée parce que, bah voilà, il faut. Faut faire des économies.
Faut faire des économies de quoi?
C'est de l'essence?
Non.
Du gaz, du propane?
Non.
Mais ça peut faire un peu plus ou un peu moins, puisque c'est la moyenne dont vous parlez.
Absolument. Bien sûr. Et eux, d'ailleurs, disent que ça doit faire 3,5 litres, mais pour l'instant, Ça n'est pas le cas chez vous, par exemple, j'imagine, ou chez d'autres.
C'est-à-dire, pour l'instant, vous pensez que ça fait plus ?
Plus, oui, plutôt plus.
Ouais, plutôt.
Est-ce que c'est les chasses d'eau ? Les chasses d'eau.
Les chasses d'eau, excellente réponse de Gérard Miller. Les chasses d'eau. Votre chasse d'eau devra faire à l'avenir 3,5 litres de moyenne de contenance.
Eh ben on boira le surplus.
Gérard est pas très bon sur Camus, mais sur les chiottes, il est extraordinaire.
Et donc là, elle ferait combien ?
On dépense trop d'eau, alors elle ferait plus, vous voyez. Il faut faire attention, on consomme trop d'eau pour les toilettes.
Enfin, excusez-moi, quelqu'un d'entre vous décide de la quantité qu'il y a dans les...
Mais non, justement.
Ah oui.
Les normes européennes feront que bientôt, on vous vendra certainement des chasses d'eau, des réservoirs de chasse d'eau qui permettront de ne pas avoir plus de 3 litres 5.
Mais ça, c'est tout rééquipé, là.
Ah bah oui, il faut rééquiper.
Mais il y a des méthodes. Vous mettez une brique.
Oui, tout à fait.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toute une étude qui a été faite par la Commission européenne et on découvre
la grosse Commission européenne.
C'était Gérard.
Très bien, Gérard. Ah, c'est
bien. Comme le dit Yann, je suis très bon en matière de chasse. Je suis excellent. Allez-y.
Là, je trouve que vous poussez un peu.
Ah mais ça c'est la psychanalyse, hein, tout ce qui est caca.
Alors on découvre dans cette étude que ce sont, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais ce sont les Luxembourgeois qui tirent le plus la chasse d'eau. Je trouve que faire des études pour en arriver là.
Mais parce qu'une fois qu'on a le résultat de l'étude, on est détendu. Ouais. On se dit
les Luxembourgeois tirent beaucoup plus la chasse que les Finlandais.
Ah, ça a peut-être un rapport avec la nourriture.
Le Finlandais appuie mollement sur le bouton, nous dit-on. Et...
qui tire la chasse perd sa place, n'oublions pas.
Toute la question est qui est capable de ne pas tirer la chasse d'eau à chaque fois, puisqu'on nous a conseillé aussi d'attendre.
Moi, quand je pisse blanc, non.
On s'arrêtera là, je veux pas en savoir plus. Hugo Frey, Charles Aznavour, Thomas Dutronc, Raphaël, mais aussi Florence Artaud, Véronique Jeannot ou Mireille Darc. Voilà des noms de célébrités qui figuraient dans une liste. Ah, Florian Gazan a l'air de savoir, mais quelle liste ?
C'est de la vraie culture, donc je le sais, c'est la tournée Sacrée Soirée.
Pas du tout.
C'est pas le casting de la tournée Sacrée Soirée ?
Bah non, Mireille Darc, franchement, je la vois pas dans la tournée Sacrée Soirée.
Oh si.
Ça a rapport avec les prostituées ?
Alors allez-y.
Non, peut-être qu'ils se sont plaints des signataires.
Non.
Une contre-pétition, ou alors ils ont signé eux-mêmes.
Alors, expliquez.
Ou alors ils étaient à l'époque, peut-être, dans le manifeste des 240...
Non. Ils ont été annoncés alors que pas du tout, en fait.
Non, mais on est tout prêt.
Ils ont fait une contre-liste, une contre-pétition.
Ils ont été choqués, ils se sont prononcés pour dire que c'était pas bien.
Non, alors donc, le contraire. Dites.
Ils ont soutenu... dit qu'ils étaient favorables à cette liste, sans signer.
Alors, ils n'ont pas signé la liste d'Elisabeth Lévy, mais ils étaient favorables, enfin, ou plutôt contre la pénalisation des clients des prostituées. Et c'est Antoine qui a fait cette révélation, le chanteur Antoine, parce qu'il explique, en fait, dans un article du Parisien de vendredi 1er novembre dernier, ça c'est quand même plutôt rigolo, parce qu'il balance les noms, je trouve que
c'est pas très sympa.
C'est quand même pas très cool. Parce qu'en fait, il y a eu cette fameuse pétition Touche pas à ma pute, les fameux 343 signataires qui n'étaient que 19 d'ailleurs au départ, lancé par Elisabeth Lévy. Certains s'y sont retrouvés et ont finalement demandé à ne plus y être comme Nicolas Bedos. D'autres y sont encore comme Éric Zemmour mais qui ne veut pas répondre sur le sujet. Toujours est-il qu'Elisabeth Lévy a publié cette liste qui a vraiment causé la polémique. Liste dans laquelle il y a le chanteur aussi Antoine. Ça on l'avait un peu deviné puisque Antoine c'est un de ses combats de dire qu'il faut rouvrir les bordels et que la prostitution devrait être plus encadrée et autorisée, voire encouragé. Et Antoine explique qu'il a dit oui à Elisabeth Lévy, mais qu'elle lui a un peu grillé la politesse parce que lui, de son côté, était en train de préparer une autre pétition à laquelle des copains à lui avaient dit oui pour signer. Il dit « Sans cautionner ni promouvoir la prostitution, nous refusons toute pénalisation des personnes qui l'exercent et celle des personnes qui ont recours à leur service ». Antoine avait rassemblé une soixantaine de signatures, dont celle d'Hugo Frey, Charles Aznavour, il faut être content, Hugo Frey, Charles Aznavour, Thomas Dutronc, Raphaël, mais aussi des femmes, Florence Artaud, Véronique Jeannot ou Mireille Darc. Sauf que voilà, sa pétition à lui a été devancée par celle d'Elisabeth Lévy.
Celle d'Elisabeth Lévy est indigne, absolument infâme, alors qu'on peut parfaitement effectivement être contre la pénalisation des clients. Par exemple, Médecins du Monde considère que si on pénalise les clients, ça risque de mettre finalement en danger un certain nombre de prostituées. Donc il y a des gens très bien qui sont contre la pénalisation. La pétition de Lévy n'était pas là-dessus. C'était simplement cette sorte de machisme puant, en plus se reprenant le slogan des femmes qui voulaient que l'avortement soit libre. Ça n'a rien à voir. Franchement, moi je ne suis pas pour, tel que j'entends le débat, je ne suis pas pour la pénalisation du client.
Non, mais ça n'a l'air pas bête pourtant, puisque c'est les macros et tous les réseaux de prostitution qu'il faut abattre. Or, si tu touches à leur chiffre d'affaires, à leur gagne-pain, c'est bien de ne pas pénaliser la prostituée, mais si tu pénalises son client, ils risquent de perdre leur chiffre d'affaires et peut-être qu'on peut petit à petit démanteler des réseaux de prostitution.
Toutes les putes n'ont pas des macros, il y a des putes qui sont putes et qui d'être putes aussi.
On ne parle pas des 10% peut-être de femmes qui se prostituent pour des sommes importantes et parce qu'elles le choisissent. On parle de la majorité des prostituées qui malheureusement sont souvent droguées, violées, mises sur le trottoir, ramenées de pays étrangers dans des conditions atroces. Et celles-là, si ça peut les aider, peut-être pourquoi
pas. Moi je pense que c'est le contraire, pénaliser le client ça va encourager la prostitution parce que le client il va se taper une pute, il paiera une amende et pour payer l'amende il va se prostituer à son tour.
Il faut donner un statut aux putes qui ont la carte de la République française, enfin l'identité française.
C'est-à-dire
les gens, les femmes ou les hommes qui souhaitent être prostituées, oui, avec un vrai statut, mais à condition qu'ils aient la nationalité française.
Tu penses à choquer,
ça veut dire que toutes les autres putes qui sont là, qui viennent des pays de l'Est, elles sont obligées de retourner chez elles parce qu'elles n'auront pas un permis de pute.
Ah, d'accord. Elles n'ont que des putes françaises.
Ah, la pute française, c'est Montebourg qui a posé à la une écu.
Je me souviens d'une brève de comptoir qui m'a fait beaucoup rire, c'est « pute, c'est le plus vieux métier du monde ». Alors t'imagines, vieille pute.
Non mais ce qui est sûr, c'est qu'au fond, on peut tout à fait être contre la pénalisation des clients, c'est un débat, mais que la pétition d'Elisabeth Lévy était pour moi, si ce n'est maladroite, hyper racoleuse.
Ça sent le moisi, ce genre de truc.
Et par rapport à Antoine, comment espérer que ce mec puisse être discret alors que ça fait quand même 10 ans qu'il gueule atoll, quoi. Donc forcément.
Vous avez été appelé, vous, Gérard ?
Non. Pas de chance qu'on m'appelle quand même.
Pourquoi ?
Quand vous voyez cette liste absolument de vieux réacs en tout genre, de Rioufol à Zemmour, je vois pas.
Moi, ils m'ont appelé, mais j'étais
au prix. Après, je regrette qu'il y ait Cobert, qui est un copain que je connais bien.
Un gros consommateur, par contre.
Qui a tout un discours, effectivement. Mais ça m'amuse, parce que le discours qu'il a, j'avais tourné un film où notamment il était interrogé sur son rapport à la prostitution. Et il a un discours très enflammé, très poétique, très lyrique. Après, il me dit jamais, évidemment, une fille qui aurait été amenée de Roumanie par la force. Comme s'il pouvait faire toujours le départ, la distinction entre les prostituées. C'est pas vrai.
Si, quand même, on peut distinguer.
Si vous voulez qu'on élargisse le débat, je trouve qu'il y a une amnésie chez un certain nombre de consommateurs. Moi, ça m'a toujours choqué que les gens qui prennent de la cocaïne oublient par quoi cette petite poudre blanche qui leur procure tellement de plaisir est arrivée. Le nombre de souffrances, de sang, de morts qu'il y a pour que la cocaïne arrive. Il y a
une amnésie chez les consommateurs. Il faut prendre de l'héroïne pour décompresser après, comme
mais
ça
non,
tu
mais
penses
pas
à tout
ça. Non, mais c'est
pareil
sur la prostitution, c'est-à-dire qu'on voit la fille, on en profite et on oublie effectivement le torrent de malheur qu'il y a derrière.
C'est facile, c'est facile de savoir si une pute est romaine. Après l'amour, elle tenait toi tes lunettes.
Un nouvel album vient de sortir, c'est la question musicale du jour. Et d'ailleurs, cet artiste a eu droit à une page entière dans Paris Match. C'est Benjamin Locoge qui lui consacre toute une page. Je dois dire, pour être sympathique avec vous, parce que franchement, ce n'est pas une question facile, que moi-même, j'avais un peu oublié cet artiste dont le vrai nom est Declan McManus. Mais quel est son nom d'artiste, justement ?
Elvis Costello.
Oh. Ah oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Comment vous connaissez le vrai nom d'Elvis Costello ?
Parce que j'adore Elvis Costello, qui est un grand artiste anglais qui n'est pas coté comme il devrait l'être. C'est un super chanteur, super compositeur.
Et qui était présentateur de télé pendant un temps aussi.
Absolument.
Vous auriez su, vous aussi ?
Oui, je pense que j'aurais trouvé. Oui.
Ah, vous croyez qu'il était mort, vous ? Oui. Bah alors, il est mort, mais alors il fait de bons albums encore. Parce que
Florian a raison, c'est un très 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 grand. Un peu oublié parce que voilà, il n'a pas fait d'album depuis assez longtemps. Mais ça a été dans la pop anglaise des années 77-80.
Elvis Costello and the Attractions.
C'est un très grand.
Gérard, vous auriez trouvé Elvis
absolument
Costello
pas. Non, absolument pas. Je connais ce nom et je n'aurais pas du tout retrouvé le nom.
On va l'écouter, Elvis Costello, mais puisqu'on a
vous
un
êtes
peu
vexé.
De temps. Oui, bah oui.
Je suis désolé.
Mec super vexé, ça. Il s'est pris un vent énorme. je suis satisfait, ça va prendre du temps.
J'aurais pas dû donner son vrai nom, en fait.
Et d'ailleurs, la question, c'était pas ça. Quel est le nom de sa grand-mère maternelle?
On peut chercher.
Bah non, mais enfin, écoutez, tant pis. Je suis aussi très fier d'avoir quelqu'un comme Florian Gazan qui me fait chier.
Qui vient nous gâcher 20 minutes.
Non, non. Michalak et Bonaldi font semblant, moi. Mais j'ai une autre question musicale. C'est quelqu'un qui a déclaré « Un seul truc m'ennuie, c'est d'être devenu une référence. Dès que quelqu'un meurt, on m'appelle. » De qui s'agit-il ?
McCartney ?
Non.
Michel Jésus ? Oh.
Michel Drucker ?
Non.
C'est un Français ?
C'est quelqu'un qui est français.
Alors attendez, vous avez dit que c'était...
Un seul truc m'ennuie, c'est d'être devenu une référence. Dès que quelqu'un meurt, on m'appelle. Donc c'est quelqu'un qui sort un nouvel album. Et évidemment, dans une interview, cette personne fait cette déclaration.
Donc c'est un grand chanteur français qui est là depuis un paquet
voilà,
de temps.
Voilà.
On peut dire ça.
Il a connu tout le monde, un peu. Hein.
Ah bah on peut dire ça aussi.
Donc c'est quelqu'un qui a... Un certain âge, peut-on dire poliment ?
Oui, écoutez, ça fait trois fois qu'on dit la même chose de façon différente.
Ça pourrait être Aznavour, quoi, par exemple.
Mais ça n'est pas Aznavour.
Ça c'est pourrait être
Eddie Mitchell.
Non, c'est quelqu'un qui, je vais vous donner son âge, a 86 ans.
Ouch. Type plutôt discret, d'habitude.
Discret, non, mais dont on parle régulièrement.
Charlie Oleg ?
Charlie Oleg. Vous connaissez beaucoup de journalistes qui appellent Charlie Oleg pour avoir un témoignage dès que quelqu'un meurt. À part Evelyne Leclerc, Fabienne Egal et Simone Garnier, qui, heureusement pour elles, sont encore vivantes. Je vois pas qui appellerait Charlie Oleg.
C'est Marcel Amont.
Non.
C'est quelqu'un qui est chanteur slash acteur ou chanteur-chanteur ?
Ah, c'est quelqu'un qu'on a vu parfois au cinéma il y a longtemps, très longtemps, mais qui a fait aussi...
Yves Montand.
Non.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, d'ailleurs. Non, qu'est-ce qu'il devient, d'ailleurs ?
Je pense qu'il devient, ouais.
Une fois, on a ressorti un coffret, mais...
Sous le nom de Yves Remontant.
Vous saviez évidemment qu'il était en vie, ça, vous le saviez.
Ah, évidemment, tout le monde sait.
Tout le monde sait qu'il est en vie.
Est-ce que vous pensez
cette personne
que nous
est
avons...
bien vivante.
Est-ce que vous pensez que nous sommes capables de chanter au moins une de ses chansons?
On dit chansons.
Ah, d'accord. Alain Souchon.
D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est interprète, qui n'écrit pas ses chansons.
Mais on dit un homme, mais c'est un homme ou une femme?
Non, c'est une femme.
C'est une femme. Ah, c'est une femme.
Ah, oui. Juliette Gréco.
D'ailleurs, si vous aviez été malin, ça fait quand même 3 minutes que je vous dis une personne, quelqu'un. Dans ces cas-là, vous devriez comprendre que je suis obligé de répondre de façon neutre à vos questions.
Et quand on est trop malin, vous nous engueulez.
Alors, vous m'avez pas répondu pour Juliette Gréco.
Mais je vous ai pas répondu parce que c'est ça, Gérard Miller. C'est Juliette Gréco. Juliette Gréco, c'est vrai, qui dit « Je suis devenue une référence, dès que quelqu'un meurt, on m'appelle ». C'est pas elle qu'on va écouter, on l'entend plus souvent qu'Elvis Costello. Alors sur Europe 1, voici un extrait du nouvel album d'Elvis Costello.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Stéphanie est à Floirac et Karim à la Ville aux Dames. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Quel temps fait-il à Floirac aujourd'hui ?
Pas beau du tout.
Oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée alors ?
Eh bien, en plus, je suis en vacances, donc...
Ah, c'est la tuile, ça, hein ?
Mais je vais m'occuper de mon petit garçon.
Et puis, vous allez nous écouter, comme ça, pendant 2h30.
Tout à fait.
Ce que vous faites tous les jours, de toute façon, j'espère.
Oui, oui.
Vous avez des chouchous dans l'équipe ? Stéphanie, vous avez des chouchous dans l'équipe ?
Oui, il y en a aujourd'hui. Stevie.
Ouais.
Ah. Chouchou. Christine.
Ouais.
Caroline.
Ouais.
Voilà. Bon, les autres aussi, je les aime bien.
Mais Stevie particulièrement. Pourquoi Stevie, on peut savoir ?
Oui, pourquoi, moi ?
Parce qu'il me fait rire.
Ah.
Il est génial.
Mais vous riez, vous vous moquez ou vous le trouvez drôle ?
Non, jamais. Ah.
Et encore, vous n'avez pas connu Choco.
Karim, lui, peut-être qu'il a des chouchous aussi. C'est où ça, la Ville aux Dames, Karim ?
C'est juste à côté de Tours.
Ah, tout près de Tours. Oh, il a la pêche, Karim. Il fait quoi dans la vie ?
Je suis actuellement en recherche d'emploi, vous voyez.
Ah, qu'est-ce que vous recherchez comme emploi, Karim ?
Dans le commerce, principalement.
Bah, alors, voilà.
C'est assez vaste, mais étant donné que je ne suis pas très bien fixé...
Si quelqu'un a un emploi pas très bien fixé dans le commerce, du côté...
Très bien rémunéré, c'est possible.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Karim ?
J'ai mangé une petite omelette avec de la purée.
Ah, c'est pas si mal. Omelette purée, c'est un peu lourd quand même, en même temps, le mélange... remarquez, pourquoi pas. Pourquoi pas faire une purée aux œufs directement ?
Oui, j'aurais pu, oui. Peut-être demain, sait-on jamais.
D'accord. Et vous, Stéphanie, hier soir, c'était comment le dîner ?
Paupiette de saumon avec du riz.
Paupiette de saumon.
Ah ouais, moi, c'est là que s'arrêtent mes connaissances culinaires.
Ouais, mais ça sent
à partir de paupiette de saumon,
ça sent le plat préparé,
plat.
Ça, non ?
Ça sent le réflexe palpétable. Stéphanie, elle nous a dit ce qu'elle faisait, elle nous a dit ce qu'elle avait mangé, elle nous a dit ses chouchous. Karim nous a pas dit ses chouchous.
Moi, j'aime beaucoup Fabrice Éboué.
Ah, il est pas là aujourd'hui, il est sur scène en ce moment.
Oui.
Il bosse comme un malade.
Monsieur Renucci aussi, j'aime
bien. Oh, merci Karim.
Ah,
mais c'est dingue.
Sa petite rhétorique, oui. Très intéressante, je trouve.
Ah, oui, oui, il est doué, hein, Renucci. Hein.
Oui, il est pas mal, ouais.
Merci Karim. Je vais t'envoyer des t-shirts, des briquets, des.
Avec marqué Monsieur Renucci dessus.
Et chez les filles
Christine Bravo me fait rire aussi. Sa petite passion pour le mensonge est assez sympa.
Ouais.
Sinon, après, c'est vrai que j'aime bien un peu tout le monde.
Si vous pouviez faire plaisir à Gérard Miller en citant son nom une fois.
Allô ?
Oui.
Allez, je passe dans un tunnel.
Ça ne s'invente pas.
Je suis désolé, Gérard. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès.
Bien sûr, mais je sais bien.
Stéphanie et Karim, vous allez peut-être partir à Valloire, en Savoie. Authentique station village de charme au pied du col du Galibier. Attendez-vous à découvrir le fameux domaine skiable de Valloire avec ses pistes de tout niveau, son snowpark, son ski cross. 70% du domaine skiable est situé au-dessus de 2000 mètres à Valloire. Si vous rendez à Valloire au mois de janvier, vous pourrez en plus assister au concours de sculpture sur glace, sur neige, des événements uniques en France rassemblant des artistes du monde entier. Votre séjour comprend l'hébergement en appartement, les forfaits remontées mécaniques et les entrées à la patinoire. Plus d'informations sur www.valloire.net. Stéphanie, Karim, la question est assez facile, je dois dire. Elle concerne la SNCF. Madame Bénédicte Tillois est directrice du réseau transilien, la SNCF, c'est-à-dire, on va dire, la région Île-de-France. Mais c'est valable pour tout le territoire français. Et elle, elle vient de présenter un dispositif de lutte contre... Contre quoi ? Elle travaille à la SNCF et elle vient... Contre...
Les fraudes à la SNCF ?
Non. Elle vient de présenter un dispositif de lutte contre...
Contre les trains qui arrivent à l'heure ?
Non. Justement, ça cause des retards dans les trains. Voilà pourquoi. Et c'est en ce moment que ce dispositif de lutte
les 10 secondes sont passées,
entrer en action. Ah, Gérard veut se venger sur... Ouais.
Non, mais vraiment pas.
Pour lutter contre les feuilles mortes de la SNCF.
Contre les feuilles mortes. Bonne réponse de Stéphanie. Bravo.
C'est-à-dire... Et voilà.
Un dispositif de lutte contre les feuilles mortes. Ben oui, c'est l'automne, les feuilles tombent et ça crée des problèmes et des dégâts sur les voies. Les trains ont du mal à freiner, les rails sont de plus en plus glissants et les feuilles mortes, c'est un véritable problème cette époque de l'année, saison.
Coupons tous les arbres.
Qu'est-ce qu'il y a, Steve ?
Ça m'énerve ce genre d'info.
Karim, alors ?
Oui, ben j'ai payé l'info, donc pas de regret.
C'est con qui arrive.
Gérard, ne vous vengez pas.
Non, vraiment, j'aurais aimé qu'il gagne.
Stéphanie, c'est vous qui partez à la neige. Avec qui partez-vous ?
Mon compagnon.
Qui s'appelle ?
Jean-François.
Jeff, on va l'appeler Jeff.
Ouais.
Comment vous l'appelez ? C'est comment son petit nom ?
Moi, je l'appelle JF.
JF.
Ah ouais, pas mal.
Il n'y a pas plus doux comme petit nom quand vous êtes vraiment dans l'intimité.
La pinou ?
Dans la chambre.
ça
doit être drôle.
Ouais. Tiger.
Allez, dites-nous, rien que pour nous.
Oh, c'est dégueulasse.
Non, je le surnomme Usain Bolt parce qu'il est très rapide.
Vous voulez pas nous dire, Stéphanie ?
Non, parce que si ma mère en plus écoute l'émission...
Mais c'est sexuel, c'est très sexuel ?
Mais non, n'importe quoi.
Bon alors, tout bas, dites-le-nous tout bas.
Ouais. Non.
Si, écoutez, franchement... Si vous nous donnez le petit nom que vous donnez à votre compagnon pendant la nuit, on ajoute une nuit supplémentaire à Valois.
Mais c'est quoi ce chantage ?
Et si vous nous dites sa position préférée, deux nuits. Et si vous nous envoyez une vidéo, trois nuits.
Et si on peut passer cinq nuits ?
Alors Stéphanie ?
Oh l'autre.
Eh ben non, je dirais pas.
Ah.
Bravo Stéphanie, je vous soutiens.
Moi je serais de vous à votre place pour gagner une nuit, j'inventerais au moins un petit nom qui serait pas celui-là.
On ne raccroche pas tant qu'on ne l'a pas. Nous, on a beaucoup de temps, vous
peut-être
pas.
Ça peut durer jusqu'à gagner.
Et si vous le dites pas avant, c'est dans la tranche de Poincaré. Hein, ça sera dans les infos. Hein.
Ça finira chez TADI. Hein.
On arrête de l'embêter, Stéphanie. Ouais. Quant à Karim, il pourra retenter sa chance une autre fois. Bravo, merci à tous les deux.
Europe 1.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
À propos de la disparition de Gérard Devilliers, l'auteur des fameux SAS, ces romans d'espionnage érotique, la question qu'on se posait, c'est pourquoi il n'y a pas eu de film et de comédiens donc qui ont interprété au cinéma le rôle de SAS.
Alors Laurent, si on veut être précis, sur les 200 SAS, il y en a deux qui ont été adaptés au cinéma.
Ah quand même.
Je vous parlais franchement, ce sont deux superbes navets qui ont été des bides incontestés. Alors, vous allez me demander, Laurent, alors c'est quoi ces deux films ?
Eh oui, c'est quoi ces deux films ?
Alors, il avait raison, Yann Moix, il y a un film qui est tombé totalement aux oubliettes, SAS à San Salvador. Alors, je vais vous donner des informations. Ce film a été tourné en 1983 par Raoul Coutard, qui est un grand photographe de cinéma. Production franco-allemande, c'est Raymond Danon qui a produit ce film.
Le chef opérateur de Godard et Truffaut.
Ouais. Pardon ?
Le chef opérateur de Godard et Truffaut.
C'est une légende vivante.
Oui, je vois dans la distribution, parce que j'ai l'affiche, on vient de me la donner.
C'est incroyable qu'il y avait dans la distribution.
Didier Bourdon.
Bah ouais, dans un tout petit rôle, et puis vous aviez Corinne Touzet aussi.
Ça alors.
Ah bah il touzait beaucoup, SAS, de toute façon.
Mais alors qui jouait le rôle du prince Marco ?
Bah écoutez, je vais vous donner ce
Michael,
nom.
Pardon.
Kiff, personne ne le connaît. Hein.
Miles O'Keefe, il s'appelait.
Miles O'Keefe.
Et le second date a été tourné
tourné en 1990. C'est SAS, l'œil de la veuve. Alors, réalisation Andrew McLagler. Dans le rôle de SAS, Richard Young.
Et il y a même Sacha Briquet, un comédien français, mais c'est un film américain.
C'est un film américain qui, là aussi, n'a pas fait...
Alors, pourquoi il n'y a pas eu de film français, de héros français? Il ne voulait pas, Gérard Devilliers?
Je vais vous donner une information, quand même, qui est importante. Gérard Devilliers disait... on ne peut pas réussir à Hollywood tant qu'on n'est pas traduit à Hollywood. Et figurez-vous que la grande maison d'édition américaine, ça date d'il y a quelques semaines, Random House, vient d'acheter 5 titres de SAS pour $350,000. Ce qui veut dire que très probablement, Hollywood maintenant va s'intéresser à SAS, donc post-mortem.
Oui, mais ça, c'est qu'une partie de la réponse, Paul Vermus.
Je vais vous donner la réponse, moi.
Parce que deux expériences étaient suffisantes.
Non, Gérard,
je vais vous donner la réponse la plus vraisemblable, c'est que les livres de SAS sont extrêmement datés. Ils sont très bien informés d'après les diplomates et les hommes politiques, mais ils sont très, très datés. Et du coup, il aurait fallu vraiment beaucoup transformer le sujet pour en faire un film.
Oui, mais regardez, ouais, 1617.
Non, mais daté,
Gérard, je vais contester Gérard Miller et lui dire que James Bond, c'est aussi très daté.
Voilà. Alors, excusez-moi, surtout, il y a quelque chose de plus important que daté, c'est que c'est quand même très érotique. Et jusqu'à 50 nuances degrés aux États-Unis où ils sont très puritains, excusez-moi.
Non, mais attendez, James Bond. Là, vous rejoignez Paul Vermus. Il n'y a pas qu'Hollywood pour faire des films quand même. En France, on aurait très bien pu faire.
Ben, ils ont essayé, visiblement. Là.
Non, c'est pas des films français qu'on vous dit.
Laurent, je prends la défense de Gérard sur un truc, c'est que les SAS, on rigole, mais c'était très important. Les ministres eux-mêmes des affaires étrangères, etc., les journalistes lisaient SAS pour savoir ce qui se passait dans
Hubert Védrine, là, oui, bien sûr, a témoigné dans
c'est
la presse.
Extraordinaire. Ouais. La manière dont il s'informait, de Villiers, au début, il y allait lui-même, il faisait tous les voyages tout seul. Après, il y a eu des équipes, mais c'est vertigineux. Les pays que j'ai visités, que je connais, je regarde le SAS, c'est incroyable. J'y suis dans le pays. Il y a tout. Il faisait le travail que les journalistes ne peuvent pas toujours faire. Et c'est vrai qu'il y a des scènes érotiques dont on se fout, en fait.
Mais bon. Des scènes érotiques. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai lu un SAS, la scène m'avait quand même marqué assez pour que j'en parle aujourd'hui. À un moment donné, un personnage est en train de sodomiser une femme et au moment de l'orgasme, il lui coupe la tête. Ah c'était cette scène-là qui était décrite.
Et ça
dans
vous a marqué, Gérard.
Mais ça m'a marqué.
Allongez-vous.
Et tu l'as refait en vrai, non? Tu l'as dû essayer en vrai?
Il y avait quelque chose. Je n'aurais jamais
c'est
imaginé.
C'était quand même très chaud.
Ah oui, c'était particulièrement chaud. Et surtout, les femmes se trouvaient en très mauvaise posture.
Non, l'avantage, c'est qu'il n'a pas eu à lui payer le taxi pour après, quoi. Ouais.
Laurent.
Oui.
Si vous voulez aller à ses obsèques, hein, c'est le 7 novembre à Saint-Honoré-des-Laux. Hein.
Non, je ne pas spécialement.
Non, je vous le signale, c'est mon rôle aussi. Hein.
Tout sur le vol du sac du tennisman argentin Del Potro. Hein, il est parti à Londres pour les Masters. Il fait partie des 8 meilleurs joueurs du monde. Mais alors à la gare du Nord, moi je veux bien qu'on lui ait volé son sac. Mais comme on nous explique que c'était le moment de prendre l'Eurostar, là normalement il y a un flic ou quelqu'un de la SNCF tous les 6 mètres. Alors comment c'est possible?
Les journaux n'ont pas été au bout de l'enquête. Ah. Il faut que je sois là pour vous dire toute la vérité à propos du vol de ce sac samedi. Hein. Voilà.
Sac dans lequel il y avait un rosaire béni par le pape François.
Ouais.
Argentin comme le joueur de tennis.
Je vais vous donner une nouvelle information là-dessus. Alors figurez-vous que depuis plusieurs semaines, sévit Gare du Nord, une bande de pickpockets très très expérimentés d'une grande dextérité. Alors, première précision, ce n'est pas un sac qu'il portait en bandoulière, mais c'est une valise à roulettes qu'il avait.
En plus,
dans laquelle il y avait aussi dans sa petite valise sa médaille de bronze des Jeux Olympiques de Londres, son trophée de vainqueur de l'US Open, un bocal de foie gras, une bouteille de vin de Bordeaux, premier cru. Bon,
c'est le jeu dans ma valise, il y a. Pouvez-vous le répéter?
Oui, alors dans sa valise, il y avait donc sa médaille de bronze.
Non, ça va, j'ai compris.
Quant à son Roger porte-bonheur, ça lui a pas vraiment porté bonheur, parce qu'il a perdu en quart de finale.
Pas faux.
Alors j'ai une information là-dessus avant d'aller dans le détail. Le service de presse du Vatican, qui est au courant de cette affaire, vient de lui envoyer par FedEx un autre rosaire béni du pape François.
Ah, voilà. Oui.
Alors maintenant, il faut savoir comment ça s'est passé cette affaire. On lit dans les journaux qu'il aurait déposé son sac, qui n'est pas un sac, 20 secondes sur le sol. D'abord, il ne l'a pas laissé 20 secondes sur le sol, il a laissé sa valise à roulettes 2 minutes. Et ceux qui ont pris des photos, d'après la police, ce sont probablement les complices de la bande de pickpockets. C'est-à-dire que pendant qu'on prenait des photos de lui,
c'est la vérité, évident.
Personne ne le connaît, hein. Enfin, il n'est pas très connu, si ce n'est des sportifs. Eh ben, pendant qu'on le prenait en photo et pendant qu'il signait des autographes,
les autographes, c'était les complices qui faisaient signer les autographes. Eh ben, la bande a pu prendre la valise à roulette qui s'est fait la malle. Voilà l'histoire.
Oui, mais vous ne me répondez pas à ma question sur le fait que ça se passe où, en Gare
zone,
du Nord?
En zone sécurisée, normalement.
Parce que normalement, c'est une zone sécurisée.
Certains sont en permanence dans les wagons du train. Alors, vous me demandez comment ils font pour être dans les wagons du train et descendre, mais ils sont déjà dans les wagons du train. Voilà. C'est une technique qu'ils utilisent très, très,
impossible.
Très souvent.
Impossible.
Non, c'est impossible.
Paul, vous êtes viré. Vous avez fait un très mauvais travail sur cette affaire.
Là, Paul, je vous prendrai pas aux experts à Miami.
Même les experts Gare du Nord, ça marche pas.
Nul.
Non, de deux choses l'une, où on lui a piqué sa valise avant qu'il embarque pour l'Eurostar, c'est-à-dire dans la Gare du Nord, et ça, ok, c'est tout à fait crédible, mais si c'est une fois qu'il a passé les contrôles et les douanes, comme il semble le dire dans les interviews, c'est impossible, Paul.
Vous avez raison, je peux pas vous donner tort comme ça, il y a des millions de gens qui nous écoutent, vous avez sûrement raison. Et dans cette affaire, il est très probable, oui, il était finalement obligé de faire amende honorable, mea culpa, il est très probable que sa petite valise à roulettes avec tout son stock qu'il avait à l'intérieur a été piquée avant qu'il n'arrive à la douane. Il n'y a pas d'autre solution.
C'était ça la question, Paul.
Eh bien, c'est ça ma réponse.
Il est fou. Ce mec est fou. Alors, on termine avec Bill de Blasio, le candidat démocrate à la mairie de New York. Un homme dont on va beaucoup parler cette semaine, surtout s'il gagne la mairie de New York, c'est ce qu'on appelle le candidat rouge, Bill le Rouge, archi favori, très à gauche, avec une femme black, des enfants métis et surtout une femme black ex-lesbienne. Alors là, pourquoi on nous donne cette précision?
Alors bon, déjà je peux vous dire que tous les instituts de sondage donnent gagnant le tout. Enfin, Bill de Blasio sera maire de New York cette semaine. Hein. Alors Bill a 52 ans et son épouse, Kyrianne McCrae, a 6 ans de plus. Hein. C'est une militante féministe de la première heure de la cause noire. Bon, elle travaille avec lui depuis des années, on va y venir dans un instant. C'est une idole de Harlem, hein. Elle déteste les élites. En 1979, cette féministe militante black fait son coming out en tant que gay noire. Elle fait ça dans la revue, la grande revue afro-africaine, afro-américaine. Un texte de cette page qui fait le tour des États-Unis intitulé « I am a lesbian ».
Ça, bravo, Paul, parce que vous voyez.
Alors, son objectif, détruire le mythe selon lequel il n'existerait pas de noir gay. C'était ça, son objectif dans les années 70-80.
Bah, nous, on le savait avec Magloire.
30 ans plus tard, elle clôt définitivement le débat sur sa sexualité, mais elle assume son passé. En fait, elle dit, c'est vrai, nous sommes un couple peu conventionnel avec Bill. Alors, elle tombe amoureuse de Bill il y a une vingtaine d'années. Ils ont deux enfants, Thierry, 18 ans, et Dante, 16 ans.
C'est le fantasme de tous les mecs, quand même.
Ben,
il faut bien dire.
Sûr.
Et c'est un sacré Bill de Blasio, parce que c'est vrai, tout homme rêve d'avoir deux femmes à Gérard.
Deux femmes? Pourquoi deux femmes?
Bah si,
dans son lit.
Dans les films à caractère gymnastique.
Deux femmes dans un lit ne sont pas forcément des lesbiennes. Permettez-moi.
Non, mais enfin, c'est un début.
Non, vous voulez dire que comme elle est lesbienne, il y a plus de chances qu'elle invite des copines.
Voilà.
Je vais vous dire, c'est plus difficile avec une lesbienne qu'avec une hétéro, alors.
C'est une femme qui est assez étonnante. Faut savoir qu'elle explique se sentir toujours lesbienne aujourd'hui, malgré l'immense amour qu'elle voue à son compagnon. Compagnon qui mesure 2 mètres et pèse 128 kilos. Hein. Vous vous rendez compte, ça fait quand même... Quand...
Bah, c'est pas une lesbienne.
Vous voyez, ce que je veux dire, Laurent. Hein.
Bah, c'est une camionneuse.
Alors, cette femme ne rate jamais une gay pride. Elle a un slogan pendant cette campagne. C'est vrai que c'est la responsable de la stratégie. C'est pas une débutante. Hein. Faut savoir qu'elle a travaillé avec l'équipe de David Dinkins, qui était le premier maire afro-américain de New York. Et puis, elle a été l'attachée de presse de l'administration Clinton. Hein. Donc, c'est vraiment une experte, c'est une vraie professionnelle. Elle a un slogan, nous sommes un real package. C'est-à-dire deux têtes pensantes pour le prix d'une. À tous les coups, il gagne.
Belle traduction.
C'est risqué, ça, parce que Hillary Clinton avait aussi, à un moment donné, fait campagne sur ce thème-là pour le prix. Vous en aurez deux pour le prix d'un.
Ce que vous dites n'a aucun intérêt, mon cher Gérard. Puisque de toute façon, il va être élu dans quelques heures, ce Bill. Hein.
Ben, on verra. Vous avez pas mal travaillé, à part pour le tennisman Del Potro, Gare du Nord, mais pour les deux autres sujets, vous méritez quand même de partir avec nous à Lyon, à la Fête des Lumières. Vous avez gagné votre voyage. Vous partez avec qui, Paul?
Écoutez, je ne sais pas encore si c'est la grosse Lulu ou Morissette. Mais
là... On vous embrasse, merci, bravo.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si.
Do, ré, mi, fa, si.
Do, Marco Rémy, Facilito.
Salut Serge.
Salut Laurent, bonjour à tous.
Ah, c'est la salut manifestation Serge. Et surtout la pétition lancée par Elisabeth Lévy qui vous a inspiré, j'imagine, touche pas à ma pute. Cette ah, oui. pétition qui a fait parler pendant tout le week-end. Certains ont regretté de l'avoir signée, d'autres assument. Enfin, il n'y en a en tout cas pas 343 comme c'était annoncé au départ. Mais vous, vous avez réussi à trouver des chanteurs et des chanteuses qui parlent de la prostitution.
Qui parlent de la prostitution. En fait, c'est une chorale virtuelle à partir d'une chanson très connue de Georges Brassens, La Complainte des filles de joie, et qui montre bien que ce thème a intéressé aussi bien les femmes que les hommes, puisqu'il y a à peu près autant d'interprètes féminines que d'interprètes masculins dans cette chorale.
C'est la même chanson interprétée par 9 interprètes différents.
Exactement.
Bon, alors on essaie de retrouver les 9 chanteurs, c'est parti.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent les filles de joie. Les appellent les filles de joie.
C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent.
Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues.
C'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles.
Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau.
Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole.
Fils de Pécor et de Minus,
fils de Pécor et de Minus,
et pas de la pauvre Vénus,
répare de la pauvre Vénus,
la pauvre vieille casserole,
parole. Parole,
la pauvre qui se prend.
Il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles.
Bon choix, Serge Liadeau, bravo pour cette complainte des filles de joie. Enfin,
c'est pas trop difficile, je crois.
Bravo surtout à Georges Brassens, parce que c'est vrai que ça nous permet de réécouter le texte de cette magnifique chanson. Mais alors, les interprètes, c'est pas si simple.
Oh, si, il y a Brigitte Fontaine en duo avec quelqu'un.
Il n'y a pas Brigitte Fontaine.
Maxime Le Forestier.
Oui.
Maxime Le Forestier, ça c'est un des plus simples.
Il y a Renaud.
Renaud aussi.
Juliette,
oui.
Les compagnons de la chanson.
Non.
Non, les frères Jacques.
Sans Severino.
Les frères Jacques, oui.
Il y a Barbara.
Barbara, oui.
San Severino ?
Non.
Il y a Balasco.
Balasco, oui. Ouais.
Zaya ?
Zaya, non.
Il y a Brassens lui-même ou pas ?
Pardon ?
Est-ce qu'il y a Brassens lui-même ?
Il n'y a pas Brassens. Il en manque 3.
Mais le duo, c'est ça qu'on n'a pas, c'est ça ?
Ouais, mais il manque le duo.
Moi, j'ai les Stones, mais
c'était
pas sûr.
C'était dans un taratata.
Et la première aussi vous manque.
Olivia Ruiz ?
La première, c'est pas Olivia Ruiz.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches.
C'est Émilie Loiseau.
Ah,
absolument. Les appels les filles de joie.
Après, c'est bien Josiane Balasco.
Qu'elle rigole, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'elle rigole.
Maxime Le Forestier.
Car même avec des pieds de grue.
C'est lui que vous avez pris pour Brassens.
Car même avec des pieds de grue. Faire les 100 pas le long des rues. Faire les 100 pas.
Barbara,
le long
évidemment.
C'est fatigant pour les guiboles. Parole, parole. C'est fatigant pour les guiboles.
Renaud.
Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau.
Les frères Jacques.
Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole.
C'est le duo suivant que vous n'avez pas identifié.
Fils de Pécor et de Minus.
Thomas Dutronc.
Pécor et de Minus.
Et Mathieu Chédid.
C'est deux hommes.
Ricard de la pauvre Vénus.
La pauvre vieille casserole.
Parole, parole. La pauvre vieille casserole.
Il s'en
et Juliette pour terminer. Bravo
cette
Serge.
Cette putain ne
merci.
Fut amère. Cette putain dont tu rigoles.
Dans un instant, l'invité d'honneur.
On va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Bonsoir invité d'honneur, bienvenue, vous connaissez le principe de cette séquence. Alors à vous de répondre maintenant aux questions de mes camarades. Oui, non, ou des phrases très courtes qui, je l'espère, permettront aux uns et aux autres de vous identifier. Mais pas trop rapidement, vous connaissez la règle.
Vous êtes un mâle?
Oui.
Est-ce que vous aimez Elvis Costello?
Oui.
Est-ce que vous avez été enlevé par 5 étudiants bordelais bourrés ce week-end?
Non.
Est-ce que vous connaissez cette info? Et si oui, est-ce que vous avez fait rire?
Oui.
Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux?
Non.
Non. Possédez-vous un ordinateur?
Oui.
Et vous le vendez, non? J'en cherche un, moi.
Je m'en sers très peu parce que je suis resté au Minitel.
Est-ce que Jean Roucas vous fait encore rire?
Parfois.
Et si c'est Jean Roucas, par exemple?
Ah bah c'est lui, s'il fait rire, c'est lui.
Parfois, dit notre invité.
Est-ce que vous fumez le cigare?
Ça m'est arrivé il y a longtemps.
Est-ce que vous connaissez Juan del Potro?
Je l'ai croisé à Roland Garros.
Vous l'avez croisé à Roland Garros?
Ah, donc c'est... Oui, oui,
vous êtes un fan de tennis?
Je suis un fan de sport en général.
Et un lecteur de SAS?
Non.
Non.
Vous vous déplacez souvent pour aller voir ces événements sportifs à travers le monde?
Ça m'est arrivé pendant très longtemps.
Est-ce que votre prénom donne matière à un diminutif?
Pour ma mère, oui.
Ça peut, mais c'est pas souvent qu'on l'utilise pour notre invité.
C'est déjà arrivé.
D'autres que, que vous sont connus dans votre famille?
Oui.
Avez-vous une carte de presse, invité d'honneur?
Oui, j'en ai eu très longtemps.
Vous en avez eu très longtemps.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes ou vous avez été un homme à femme?
Et un homme à homme?
Encore moins.
Vraiment.
Un premier indice.
L'aventure, c'est l'aventure. Elle est pareille à l'amour. Elle est en moi pour toujours, oui pour toujours. L'aventure, c'est l'aventure. C'est mon soleil de miné.
C'est un indice qui n'est pas évident. Et pourtant, Gérard Miller a déjà identifié notre invité d'honneur. Bravo Gérard. Là, vous me direz tout à l'heure ce qui vous a mis aussi rapidement sur la voie.
Mais oui, qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est du
don. Tandis que Florian Gazan...
de savoir, de don...
Taisez-vous maintenant, Gérard. Florian Gazan a proposé Jean-Loup d'Abadie. Vous n'êtes pas Jean-Loup d'Abadie. Les autres camarades cherchent...
Non, j'aime bien parce qu'il se refait les gens qu'il a vus dans les gradins.
Exactement.
Ah oui, on va avoir le droit à Pierre Perret, Pierre Richard.
Allez,
ouais, Patrick Noël, Jean-Paul Belmondo, et Nolo.
Vous portez des lunettes?
De temps en temps le soir.
Mmh. Ah. Est-ce que vous êtes un beau gosse?
Non.
Non,
pourquoi vous dites non? Je suis sûr que vous allez plaire à Stevie, vous allez voir.
Oh bah, s'il dit non, non. Moi, j'aime les gens qui assument leur corps.
Gérard Holtz. On me propose deux Gérard Holtz pour le prix d'un, mais non, notre invité n'est pas Gérard Holtz. Voici un autre indice musical.
Tu deviens à mes côtés un vrai chien de garde.
C'est bon de t'aimer, mais ma liberté, je la regrette quelquefois, et dans ces moments-là.
Ça, c'est un bel indice. Vous connaissiez cette chanson, invité?
J'ai entendu il y a très longtemps.
Il y a très longtemps.
Est-ce que j'ai l'impression quand même que dans la partie journalistique de votre vie, vous avez surtout travaillé sur le sport?
Dans la première partie, oui.
Oui.
D'accord.
Vous avez déjà publié des romans ou des essais? Oui.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'on vous connaît plus pour les romans que vous avez publiés ou pour votre carrière de journaliste?
Tout pour ma carrière de journaliste.
D'accord.
Mais pas seulement, attention, ne partez pas sur une mauvaise piste.
C'est ça, je sens qu'il y a une double trajectoire.
Vous êtes parti sur une carrière de journaliste, c'est pas non plus... Alors évidemment, ça caractérise beaucoup notre invité, mais pas seulement. Qui m'a donné ce petit papier? C'est Yann Moix qui, lui aussi, a identifié notre invité. Ils sont donc désormais deux, à savoir qui est dans la loge d'honneur. Un autre indice.
Il voyait bien les autres passer sur le chemin. Lui, il était toujours dans le jardin. Jamais, jamais les filles lui envoyaient la main. Compris qu'il n'était pas malin. Il bêchait les yeux par terre.
Allez, il faudra l'expliquer, cet indice. Il est un peu compliqué, mais on l'expliquera après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Il voyait bien les autres passer sur le chemin. Lui, il était toujours dans
c'est
le
Félix
jardin.
Leclerc qui chante, c'est surtout le jamais titre jamais de la chanson qui compte. On vous l'expliquera tout à l'heure. Mais Stevie a une question à poser.
Oui, bon, sachant qu'il y a de moi que c'est Gérard Miller, vous ont identifié, est-ce qu'on peut penser que vous êtes un poids lourd de la pensée dans notre pays? Soit un intellectuel, non? Absolument pas. Même pas un trait de génie.
est-ce qu'on peut dire que, en plus d'être journaliste, vous avez une carrière artistique?
Ah, vraiment?
Une carrière télévisuelle?
Télévisuel.
Télévisuel.
Bravo Florian Gazan.
Donc vous êtes présentateur slash journaliste.
C'est facile, dit Gérard Miller, qui biche depuis déjà 5 minutes. Yann Moix aussi.
Grâce au premier indice, moi.
Grâce au premier indice. Et Florian Gazan, c'est Florian qui vient de me donner ce morceau de papier. Vous aussi, vous avez identifié qui est dans la loge d'honneur. Seuls Stevie, Caroline Diamant et François Renucci cherchent encore. Je leur donne une autre chance. Oh. Ça, quand même, ça devrait vous aider, François, Caroline ou Stevie.
Bah non, si, bah ça m'indique que vous aviez une très vieille émission à l'époque où il y avait peut-être 3 chaînes. Ah, vous n'êtes pas...
Bernard Pivot me proposait quelqu'un. Qui m'a proposé
moi.
Bernard Pivot, vous, Stevie
moi.
Êtes-vous Bernard Pivot? Non.
Non.
Ah,
ou non. Quelqu'un dans le même genre? Un chapier, un truc comme ça?
Un chapier. Oh, êtes-vous un chapier?
Voir un truc comme ça.
Ni un truc comme ça.
Non, pardon, quand je dis ça, c'est pas méchant, j'adore
si,
ces messieurs.
Mais ça manque de respect.
Hein. Non, pas du tout, pas dans ma bouche.
Caroline Diamant me propose un nom, Jacques Chancel. Ah, ça c'est une bonne idée, êtes-vous Jacques Chancel?
Non.
Là, je vais vous donner un indice, si vous ne trouvez pas après cet indice, vous êtes vraiment nuls, tous les trois.
Ah, viens ma chère, dans mon hélicoptère. Là-haut, on se fout des envieux, des raseurs. Et l'on domine le monde de toute
on est
sa
con,
hauteur.
Hein.
Ah, c'est le... C'est pas le présentateur de la chaîne.
Tu verras quel délice. On se croit un papillon, un zéphyr, un oiseau. On bécote l'atmosphère. Dans mon nez, dans mon lit, dans mon con, dans mon hélicoptère.
La Caroline Diamant, évidemment, a trouvé. Franchement, c'était facile,
bah oui.
Caroline. Et vous, François Renucci?
Je me rappelle plus du nom, mais je l'ai trouvé.
Ça peut pas être lui, alors.
Si tu te rappelles plus du nom,
quand
c'est pas
bon. Stevie propose le présentateur de...
L'île de la chasse au trésor.
Moi aussi, je pensais à ça.
À Sylvain Augier.
Qui est tombé
Sylvain
d'un Augier. Avion, qui a très très mal.
Ah,
qui...
Sylvain Augier.
Ah, voilà, je pensais à ça aussi.
Bon, alors les autres, vous allez pouvoir annoncer notre invité d'honneur. Qui... C'est vrai, c'est quelqu'un de pas très connu, donc c'est pas facile de l'identifier.
Mais c'est connu que ça.
Ah, c'est... Oh, bon, notre invité, c'est...
Michel Drucker.
Oh non. Non, c'est pas vrai.
Michel Drucker est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie en librairie, sortie déjà quelques semaines, de La Lumière à l'oubli, publié chez Robert Laffont, ce livre qui raconte les difficultés de ce métier. On est parfois effectivement dans la lumière et parfois dans l'ombre, mais ça n'est jamais irrémédiable.
C'est ça qui est assez fascinant. C'est comme en politique, on n'est jamais vraiment mort.
Alors, autant vous dire que cette séquence de l'invité d'honneur ou invité mystère est très révélatrice d'ailleurs de ceux qui sont ou dans la lumière ou dans l'ombre. Parfois, on reste longtemps dans l'ombre, même si pourtant on est dans la lumière, puisque vous êtes resté dans l'ombre pour Stevie jusqu'au bout. Hein. Et aussi pour François Renucci.
François, c'est bizarre, hein, pourtant.
J'ai oublié son nom, me dit-il.
Michel Bruckner.
Je ne sais pas comment j'ai fait. C'est tellement évident en plus.
Non, mais il y avait des indices plus faciles pour moi. Vous me dites. Il est super facile l'indice. Je ne sais pas, il fallait prendre un générique de l'une de ses émissions. Ou quelque chose comme ça. Là, on aurait trouvé tout de suite.
C'est Arnaud Crampon qui prépare des indices.
Exactement.
C'est assez malin parce que l'aventure, c'est l'aventure, c'est pas évident. C'est parce que
le film était diffusé hier soir sur Paris Première. Et effectivement, cette chanson de Johnny, c'est la chanson du film. Et on vous voit dans le film.
Et Lelouch m'avait confié un petit rôle. Et j'avais accepté parce que d'abord, on est des amis de toujours. Et puis, parce que quand même, Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Macchione, c'était un souvenir magnifique. J'annonçais le kidnapping de Johnny, mais il y avait un autre indice formidable où il y avait un duo entre mon épouse.
Alors on va y venir, mais d'abord restons Michel sur l'aventure, c'est l'aventure, parce que je n'en reviens pas, c'est ce qui vous a mis sur la voie.
Alors moi je suis un fan de Claude Lelouch, on n'est peut-être pas nombreux, tout le monde dira que c'est un génie après sa mort, moi j'ai toujours pensé que c'en était un. Et effectivement il y a cette scène d'enlèvement de Johnny et c'est Michel qui l'annonce à la télévision.
Ouais. Et c'est ce qui vous a tout de suite fait deviner que Michel Drucker était notre invité d'honneur, mais vous Gérard alors?
Moi j'ai trouvé, alors il y avait quatre éléments, longue carrière, passionné par le sport, journaliste pendant très longtemps. et qui n'est pas un homme à femme spécialement. Et ensuite, je vais vous dire ce qui m'a vraiment mis sur la voie, c'est la façon de répondre. Il avait une façon extrêmement professionnelle de répondre, beaucoup plus professionnelle que la plupart des invités. Il jouait vraiment le jeu, il était clair, il était net. Et du coup, j'ai reconnu ta voix alors qu'elle était déformée.
Le deuxième indice, c'était bien Dany Saval qui chantait. Avec un garçon qui s'appelle Serge Prissé.
Oui, qui est un cousin qui a beaucoup de talent.
Qui est dans l'ombre, lui, ouais, alors,
oui,
pour le coup.
Et Dany, dans sa longue carrière, qui n'a pas duré longtemps, mais qui a été très riche, elle a chanté, elle a même chanté, j'en parle dans mon bouquin, une chanson écrite par Pascal Sevran, qui était l'hôtel très particulier. Elle connaissait donc Pascal Auria, etc. Et c'est vrai qu'il lui est arrivé de chanter pour les Carpentiers avec cette gouaille et cette voix à la Arletty qui m'a beaucoup séduit.
Et vous racontez dans le livre qu'elle, elle a choisi l'ombre.
Oui, moi j'ai rencontré quelqu'un qui à 29 ans m'a dit « Si on est encore ensemble dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu me remercieras. Tu verras qu'il n'y a pas la place pour deux sur l'affiche et que les femmes et les hommes ne sont pas égaux devant l'âge. C'est encore plus cruel dans le métier de comédienne. » Elle a raison.
Alors vous avez deux amours dans votre vie, Dany Saval, mais aussi le vélo, puisque l'indice suivant, c'était le vélo. Cette chanson
c'est
de Félix
un
Leclerc.
Vélo, un beau vélo, à soubresaut, tout neuf, tout beau. C'est à ça qu'il rêvait. Soir et matin, sur le grand chemin, rouler et ameuter le quartier. Faudrait le lui souhaiter.
À Paris, vous faites toujours du vélo ?
Oui, mais j'ai aussi un rapport fort avec le Québec, donc c'était un double tranchant. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé au Québec, je le raconte, je suis allé déposer une paire de vieux souliers sur la tombe de Félix Leclerc, parce qu'à l'île d'Orléans, quand on va saluer Félix Leclerc, en hommage à sa chanson « Toi, mes souliers », on dépose des souliers. Le vélo, oui, j'en fais presque tous les jours, soit home trainer, soit à l'extérieur. Je fais 4000 km par an.
Ah, comme moi.
mais à mon rythme.
Mais en tant que gourde, vous seulement, alors.
C'est déjà pas mal.
Hey, c'est bien comme gourde, je trouve.
Oui,
j'aimerais bien faire appel à elle de temps en temps.
Ah, bah, ça fait les mollets, il faut se la travailler.
Caroline, comment vous acceptez ça, Caroline?
C'est une faux rire.
Elle prend tout, alors. Caroline, c'est vraiment le punching ball parfait. C'est vrai, en plus, elle est intelligente.
Mais il faut faire du vélo. Puis maintenant, ceux qui ont pris de l'âge, il y a des vélos électriques magnifiques.
Un autre générique. La musique de la première chaîne de l'ORTF. Ah. Et voilà, oui. Qu'est-ce que vous voulez, Michel? C'est quand même la première partie du livre, parce que l'ORTF, c'est mai 68 aussi.
Ouais, c'est vrai.
Et vous racontez effectivement dans votre livre combien vous a marqué, non pas la déchéance, parce qu'après quand même il est revenu dans les médias, mais le fait que Léon Zitrone, et vous et quelques autres, aient été virés. Mais lui, c'était une grosse star à l'époque.
C'est-à-dire que la jeune génération ne sait pas ce qui s'est vraiment passé en 68, mais Gérard s'en souvient, lui qui connaît la politique française par cœur. Ça a été très violent. Hein. De Gaulle n'a pas supporté que la télé soit en grève. Sa télé... Et l'exécuteur des basses œuvres, c'était Maurice Couve de Murville, qui a été son premier ministre, et puis Monsieur Perfit, qui était en réalité notre rédacteur en chef. On a tous été virés. Moi, j'étais le plus jeune, mais j'ai tout appris de cette année de traversée du désert.
Yann Moix.
Je suis en train de lire le livre de Michel. Alors, il y a un portrait de Pascal Sevran qui m'a beaucoup touché, mais j'ai adoré les passages sur Zitrone parce que c'est d'une violence inouïe. Zitrone, après 68, ils le font revenir, mais de manière humiliante. En voix off, par exemple, à la fin des informations.
Terrible.
Et vous montrez très bien l'humiliation permanente de ce monstre télévisuel qui est devenu vraiment pestiféré. Et qui fait des animations au supermarché, etc. Et qui va demander un moment à Patrick Sébastien, comme ça, toi qui as du pouvoir, Patrick, fais quelque chose pour moi. Et c'est vraiment, c'est terrible, c'est très violent et c'est assez émouvant.
J'étais son voisin, c'était le hasard a joué un rôle très important dans ma vie. Et j'habitais Place Clichy avec ma maman, et juste en face, à côté du cinéma Véplaire, il y avait l'appartement de Zitrone où j'allais, j'avais mon rond de serviette et ma boîte de fortifiant, j'allais le chercher tous les matins. Et donc j'étais dans son ombre. L'ombre d'une star colossale. Zitrone, c'était, je sais pas, c'est l'équivalent de Pujadas, de Laouse, de
Laurent Ruquier.
De Pierre Chazal et de Gilles Boulot.
Il était dur, Zitrone, quand même. C'était pas le plus gentil.
Il était obséquieux avec les puissants et méprisant avec les petits.
C'est la pire caractéristique d'un être humain.
Mais j'ai beaucoup appris avec lui.
Comment il parlait mal de la vachette dans l'interview. Choquant.
De la lumière à l'oubli, on continue à en parler jusqu'à 18h30. Michel Drucker est notre invité d'honneur. Michel Drucker est notre invité d'honneur. De la lumière à l'oubli. J'ai lu le livre il y a déjà quelques semaines. Michel, vous avez reçu dans On n'est pas couché à cette occasion. Et je me souviens qu'on s'était parlé de Frédéric François à cette époque. Depuis, il est venu dans les rendez-vous du dimanche.
Et on a fait un carton.
Il paraît que ça a été un record d'audience.
Un des records d'audience. Avec Muriel Robin hier.
Muriel Robin aussi a très bien marché hier. Énorme. Mais on va dire que c'est une invitée plus normale, entre guillemets, par rapport à Frédéric François, que vous n'aviez jamais eu. Il y a la liste des gens comme ça que vous n'avez jamais eu. Et il y a un sujet que je n'ai pas abordé avec vous la dernière fois, c'est Alain Delon. Puisqu'on a beaucoup parlé de Belmondo et du dimanche que vous aviez consacré à Jean-Paul Belmondo. Vous aimeriez aussi avoir Alain Delon ?
Alain Delon, c'est compliqué. Mais je le connais depuis 50 ans. Mais Alain Delon, c'est le personnage du film de Melville.
C'est étonnant qu'il ait jamais eu son dimanche.
Si, il a dû son dimanche. Il a eu son dimanche il y a longtemps. Mais là, vous pensiez peut-être pour ses 80 ans.
Exactement.
Puisqu'il aura 80 ans dans un an. Et puis, pourquoi pas lui consacrer le dimanche que j'ai consacré à Belmondo. C'est compliqué, Alain Delon. Parce qu'Alain Delon, il peut être charmant, courtois, drôle, très drôle aussi. On le dit pas assez le lundi. Et puis le mardi, il est très sombre. Il a un rapport particulier avec les gens, avec la mort. Et c'est quelqu'un quand même qui est, contrairement à Jean-Paul Belmondo, qui garde le sourire malgré tout le drame qu'il a vécu, c'est quelqu'un, anxiogène est un mot faible, c'est quelqu'un qui peut vous plomber 3 heures d'émission, Alain, s'il n'est pas d'une heure. Donc s'il se fait 3 heures d'émission pour son anniversaire et qu'il les plombe, c'est un peu gênant. Mais il est capable de moments magnifiques.
C'est chez Robert Laffont, de La Lumière à l'oubli, Michel Drucker. Puisque vous nous écoutez de temps en temps, je sais que vous connaissez le passage obligé du compliment de Stevie. Ah. On ne peut pas partir sans avoir eu ce compliment. Alors Stevie...
Mais je m'y prépare depuis 8 jours. depuis que je sais que je suis l'invité mystère, je me dis, mon Dieu...
Oh, mais vous savez, Michel, que je vous adore. Vous ne m'avez toujours pas eu dans votre émission. Vous le regretterez un jour.
Mais à chaque fois, il me le dit, d'ailleurs.
Ah, vous allez avoir des regrets.
Ça me fait penser à Dick Rivers.
Ah non, c'est pas moi qui suis venu chercher compliment.
Non, parce que, on en a fait des tonnes avec Dick Rivers qui, à chaque fois, me dit quand est-ce que j'ai droit à vivre mon dimanche alors que j'ai la même carrière que Johnny et qu'Elvis Presley.
Stevie a la même carrière qu'Einstein.
Non, mais dans le Louvre de la télévision, mon cher Michel, vous en êtes la pyramide. Vous avez traversé l'histoire. C'est le jurassique de la télé qui rejoint la modernité.
Vous le laissez parler, les conneries vont venir.
Non mais c'est un gros respect. Déjà arrivé,
mais ça avait bien commencé, hein. Non mais là, jurassique. Non mais voilà. La boulette.
Non voilà.
Allez, Stevie, je vais vous offrir le livre de Michel Drucker, De la lumière à l'oubli, c'est chez Robert Laffont. Merci,
Je pense souvent à vous parce que je vais souvent dans la Sarthe. Vous avez fait un sacré parcours. Je sais que Laurent n'est pas tout à fait étranger. Mais moi, je vous ai vu dans la première émission de télé-réalité. J'imaginais pas que 10 ans après, vous me feriez un compliment ici.
Merci, Michel.
Et quel compliment Michel Drucker était notre invité d'honneur. De la lumière à l'oubli est en librairie. C'est chez Robert Laffont. À demain, 16h.